Attendez, j'ouvre le bon micro. Ah, c'est moi, c'est petits yeux ce matin. Oh, est-ce qu'il vous arrive, bonjour à tous, est-ce qu'il vous arrive de vous lever le matin? Que votre épouse, par exemple, si vous êtes marié, vient vous voir, vient vous réveiller parce que vous avez travaillé tard et que vous avez laissé le... T'as l'air crevé, oh my god. Non, non. Et que vous êtes, bref, couché tard, et que vous avez laissé, du coup, mis le réveil un peu en décalé. Votre épouse s'inquiète, elle a l'habitude de vous voir lever aux aurores, sinon en pleine nuit, et elle vient vous voir. Et là, vous dites, vous avez dans votre tête, vous avez 7 ans. Et vous lui dites à votre épouse, je ne veux pas travailler. Je ne veux pas aller travailler. C'est le je ne veux pas aller à l'école hein, que nous avons connu enfant. Je ne veux pas me lever. Moi, je veux regarder des séries. Je veux manger des céréales au lit. Je ne veux pas me laver. Voilà. Je ne veux pas me lever. Je ne veux pas travailler. Et je lui dis, mais j'en ai marre de travailler. Ça vous arrive ou pas? Ce matin, j'étais comme ça, moi. Oh. Donc fin de live. Mais non, Corangui, parce que c'est la magie de Twitch. Tu lances le stream. Et c'est là où la vie de streamer est formidable. Tu lances le stream et tu vois tous ces messages et tu vois cette énergie, ce dynamisme, cette empathie, cette envie de débattre et d'échanger. Et là, tu te dis, ouais, let's go, on fait ça, quoi. Tu vois? Là, ça va. Il y a eu du café, il y a eu douche, il y a eu rasage. Mais j'étais dans ce mood. Moi, tout pareil ce matin. Du coup, je me suis recouché. Oh, la chance. Salut, Alibex. Merci pour ton message à l'instant. Merci, Loupi. Ça va être une. Non, en plus, le ce. Je t'aurais. Franchement, j'ai rien pour me plaindre. C'est une Noctali. J'ai rien pour me plaindre. La semaine de stream est formidable, en vrai. Tu vois. Salut, Mathieu. Tu l'as vu? Mathieu qui gère la chaîne YouTube est là. Et oui, on a fait un ace. On a fait un ace. Un ace sans s'en rendre compte, un ace comme ça, comme on respire, comme on boit un verre d'eau le matin, un petit comme ça. Ah, il y a un sugar à mille images. Il est trop fort. Ça va partir sur les réseaux, ça. Attendez, il est où? Il est là. On se le regarde vite fait. Je l'ai pas vu encore. Hein. Je n'ai pas vu les images. Hein. Surtout que c'est les mates qui m'ont dit que j'avais fait un ace. Perso, je m'étais rendu compte de rien. Comme d'hab. Ok, ace donc. Let's go. Ok, Reyna. Ok, raise. Je crois que c'était raise au fond là. Ah, petit ult. Ah, l'ult. La flash, elle est pas là. On va se cacher, on bouge, on va pas rester au même endroit. Avec moi, là. On donne des infos. On donne des infos. Ça fait deux, hein. À deux, mais il y a eu revive alors.
Là où tu es, madame Gaspard.
Il y a eu revive, puisqu'il y a encore quatre
là,
en face.
Ça arrive, hein.
Ah, ça arrive. Revive.
Ça arrive, mais j'ai plus personne en.
On prend la ligne, on prend la ligne. Voilà.
Ça court sur A.
J'ai l'info. Voilà. Donc ça ferait 6 kills du coup peut-être?
Non.
Donc là on libère pas le mate hein. Ah, on joue les kills.
Louis.
Ah non, c'est pas un ace. Eh ben c'est pas un ace. Le dernier kill c'est pas moi. Un ace et 5 kills. Ça fait quand même 5 kills. Madame Gesmer, c'est pas un ace. Regarde, on voit bien que le dernier kill, c'est pas moi. Il y a une. Ouais, ça fait 5, mais c'est pas un ace. Si, c'est un pentakill. Débat, débat. Ah. Attends, j'ai même pas revu les images. Bon, je vais me recoucher. C'était. Alors attends, je vais préciser à Lucie qui va mettre ça sur le réseau. Ah, attends. Attends. Qui a tué le dernier, c'est honteux. Non mais j'allais me faire tuer en vrai. D'ailleurs, techniquement, ce n'est pas un ace, mais un pentakill. Peut-être le préciser pour les puristes. On les connaît, hein, les justiciers de Wish. Peut-être le préciser pour les puristes. Non, c'était beau quand même. Il n'y a rien de fou d'ailleurs, hein. C'est des kills qui sont pas très très compliqués à prendre. Mais c'était un bon moment. Il y a eu la musique. Ah, bon, bref, donc voilà, je suis très heureux de vous retrouver avec un menu de stream cette semaine. Les deux premiers sont propres, merci Sugar. C'était bien hier soir. 4 enquêtes, 3 wins hein, quand même. Hein. Nanana. Voilà. Bon, pardon, on s'est sur la marche du monde, les crises. Les débats importants, la revue de presse, l'actualité, et ça regarde des clips de Valo. Eh ben, bon, en tout cas, je suis très heureux de vous retrouver. J'ai adoré l'invité hier. À quand le prochain? Oh, bon, des invités. Alors Jérémy, les invités cette semaine, c'est y en a un. Alors je vous explique. Hier, vous l'avez en replay. C'était trop sympa. On a reçu une docteure spécialiste en santé publique pour nous parler des gestes barrières. D'ailleurs, si j'avais moi, j'aimerais bien que la revue de presse, qui est un rendez-vous dont je suis très fier, la matinée Étienne, le matin sur Twitch, j'aimerais bien peut-être l'enrichir de temps en temps, comme ça, avec des invités, alors, au moins un invité, je sais pas, un invité par semaine en fin de revue de presse, sur l'actu, voilà. Bon, enfin, mais il faut que je m'organise, quoi. Donc ça, c'était sympa. Aujourd'hui, c'est mercredi. Normalement, le mercredi, c'est MVP deux fois par mois. MVP, c'est Ma Vie Pro. C'est l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. On parle de secteur d'activité, de métier, d'entreprise. Qu'est-ce que je ferai plus tard? Je m'ennuie dans mon job. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Voilà. Ça, c'est MVP. C'est une émission qu'on a lancée il y a un an et demi. C'est la deuxième saison. Et vraiment, c'est une émission dont je suis très, très fier. Et MVP, exceptionnellement, c'est pas aujourd'hui mercredi. C'est demain jeudi à 14h. Pourquoi émission à un jour, à un horaire particulier, parce qu'il y a une émission un peu spéciale, en direct de la Maison de la Radio, qui est un très bel endroit, hein, qui est le bâtiment qui abrite Radio France, France Inter. Historiquement, il y avait Radio France Internationale, mais ils sont partis, etc. Je pense que FIP doit être là-bas aussi. Et c'est un endroit où j'ai travaillé. Moi, j'ai travaillé 5 ans à Radio France Internationale, puis j'ai un peu travaillé à France Inter aussi à une époque. C'est un bâtiment mythique qu'on appelle la Maison Ronde, hein, la Maison de la Radio, je pense que tout le monde la connaît. Je vais vous la montrer, parce qu'elle est ronde. C'est un bâtiment architecturalement parlant qui est assez étonnant et auquel j'ai le bon souvenir de jeune journaliste 95-99. La maison de la radio. La maison de la radio, bah voilà, on la voit, là, elle est là et on la voit, elle est ronde. Hein, elle est étonnante. Il y a une belle image là. Voilà. Voilà, maison de la radio. Voilà. Dans le 15-16, je sais pas ce qu'on dit. Il y a la scène. Il y a la scène peut-être qu'en face c'est le 15 et la maison de la radio dans le 16 hein, 75-116 c'est marqué là, ouais c'est ça. Et moi j'ai eu la chance de travailler là quand j'étais jeune journaliste et c'est la maison ronde parce qu'elle est ronde et du coup les couloirs qui distribuent les services, les rédactions sont tous en courbe si tu veux et font le tour comme ça. Et tu peux faire le tour. Ouais. Et c'est un drôle de bâtiment. Ouais. J'y ai travaillé 5 ans. Donc, on y retourne au studio 104, qui, je crois, est le grand studio qui peut recevoir du public, demain, 14h, pour un MVP spécial média, spécial journalisme, sur les métiers des médias, sur les métiers de journalisme. On va recevoir des créateurs de contenu spécialisé en info, on va recevoir des journalistes, notamment une rédactrice en chef, peut-être même une directrice de la rédaction adjointe des Échos, on va avoir Gaspard G, on va avoir plein de gens pour parler du journalisme aujourd'hui, des médias, quels sont les métiers, est-ce que c'est des secteurs qui embauchent, comment on peut être journaliste aujourd'hui, quelles sont les formations, est-ce que c'est un métier d'avenir, est-ce que Internet a tout changé, évidemment que oui, etc. Donc ça c'est demain 14h, ça va être sympa, une émission de 2h30 à peu près. Et puis on parle beaucoup de... à l'époque tu invitais souvent des invités, des gens de la rédaction. Ouais c'était cool ça, on faisait ça ouais. notamment ouais. Ça c'était cool. Et puis okay. Et puis vendredi, info toujours. Là, c'est les 200 ans du Figaro. C'est un journal que je lis tous les matins. D'ailleurs, ce matin, on va le lire à propos de la démographie, notamment. Mais on lira quatre journaux sur ce sujet. Vous voyez, c'est la une d'au moins quatre journaux ce matin. Hein, le fait qu'il y ait plus de décès désormais chaque année en France que de naissances. Hein. Donc, c'est la grande bascule démographique. Voilà, c'est un solde négatif, naissance-décès. Donc, ça c'est une grosse actu qui est du coup en une de quatre journaux et il y aura notamment le Figaro. Et donc, vendredi à 14h, on sera en direct cette fois du Grand Palais. Voilà la balade touristique dans des très beaux lieux de Paris, puisque la maison de la radio, c'est assez cool. Et le Grand Palais, c'est juste magnifique. Et le Grand Palais, 14h aussi, vendredi. Là, on a un stream IRL en mode super production dans cette exposition qui célèbre les 200 ans du Figaro. Hein, qui n'a pas toujours été le journal qu'il est aujourd'hui. Au début, il y a 200 ans, c'était une petite feuille de peut-être une, deux pages, quatre pages, deux pages, quatre pages, qui parlait essentiellement de littérature, une petite gazette, quoi. Et donc, on célébrera les 200 ans du Figaro. Ils ont mis les petits plats dans les grands au Figaro. Ils ont fait une grande exposition au Grand Palais, qui est assez incroyable. Ça dure 3 jours avec plein d'événements. Voilà. Et on fera 3 heures de stream IRL avec 8 invités, alors 8 journalistes du Figaro. Et là, ben, ce qui nous permettra alors, de parler du Figaro et de son anniversaire, mais aussi ben, des métiers du journalisme, de comment informer aujourd'hui, de comment on prend le virage des nouvelles plateformes, comment faire, alors que de moins en moins lisent la presse, écoutent la radio, regardent la télé, comment on fait pour toucher ce public-là? J'ai plein de questions à leur poser, et ça va être un beau stream de 8 heures. Super production, un stream IRL, 2 caméras, des micros, en veux-tu, en voilà. Joe à la réalisation, 2 cadreurs, un ingé son, 2 caméras. Jennifer Lopez va passer, il y aura des fumigènes, voilà, ça va être incroyable. Voilà. Ah! Oh! Et c'est quoi cette semaine de stream? Dimanche soir, le visuel est en préparation. Et je vais le poster très vite, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Ava Mind. Ava. Ava! Ava Mind. La streameuse. La DJ. Dans ça me plaît, oui. Pouah. Merci Pompidou pour le 27e mois. Merci Chigouridou pour le 20e mois. Merci Ezekiel pour le 3e mois. J'ai remercié aucun sub. Merci Coco Pébé pour le 30e mois. Vous êtes incroyable. Voilà. Et pour un ça me plaît un peu spécial, elle est au courant? Oui. Elle m'a envoyé des photos pour préparer le visuel. Et alors. Ce sera un stream un peu particulier, enfin un Samplay un peu particulier. Samplay, c'est mon émission depuis 3 ans maintenant, où chaque dimanche je reçois un invité qui me parle de son vidéo préférée. Bah, Ava, dimanche, elle va me coacher pour ma future carrière de DJ. DJ Samuel, DJ Ava, dans la place. Voilà. On a loué une platine, là, je sais pas quoi, j'y connais rien. Et ça va, voilà. Et ça va mixer. Jamais touché ces trucs-là, moi. DJ, ça m'émue. Voilà. Si, c'est ça. C'est elle qui m'a proposé. Je lui ai dit, tiens, va, tu viens dans Simplay, viens, tu veux qu'on joue à quoi? Elle m'a dit, bah, viens, je vais te coacher en DJ mix. Elle va être très impressionnée. Oui, elle va être sûrement très impressionnée par la lenteur du gars, ouais. Donc, ça, donc voilà. Donc, hier, les gestes barrières. Demain. MVP vendredi Figaro, dimanche Samplay Ava. Voilà. Ce matin, je voulais pas me lever, moi. J'étais en mode laissez-moi, je vous ralentis là, laissez-moi sur le bord de la route, j'en peux plus. Voilà, donc ça va être sympa. Ava, dont on parle beaucoup sur les réseaux en ce moment. Je sais pas si elle voudra parler de ça, je sais pas si je veux y aller, mais c'est qu'Ava, c'est quelqu'un qui a le courage de ses valeurs. Et qui a pris des positions sur des questions sociétales et politiques, voilà, et qui est la cible du coup de nos bien-aimés. Comment les qualifier ceux-là? Comment les qualifier en termes châtiés? Comment les qualifier? À teaser de haine. Pas mal ça. pas mal ça. Ouais. On pourrait les appeler comme ça notamment. Voilà. Et elle est courageuse. Elle répond, elle se bat. Voilà. Oui, j'ai eu droit à mon petit clip ce matin de la part de oui, j'ai vu du justement de l'un des comptes sur les réseaux sociaux qui la cible particulièrement. Mais moi je suis habitué. Je suis vieux, moi. Donc voilà. Donc est-ce que vous voudrez en parler? Est-ce que ce sera le lieu? Est-ce qu'on fera pas une soirée totalement chill dimanche soir, vous voyez? Est-ce qu'on n'a pas besoin aussi, alors que tous les matins dans la revue de presse, on parle de ce genre de sujet, est-ce que dimanche soir, est-ce qu'on n'aura pas envie justement de mettre ça derrière nous? Alors qu'on est un peu ciblés tous les deux par les mêmes personnes d'ailleurs. Sauf qu'en plus, elle, c'est une femme, donc elle prend beaucoup plus cher. Est-ce qu'on n'aura pas envie d'être en full chill, voilà, et de se détendre, quoi. Peut-être. Bah, en tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver. On feeling, ouais, on verra. Ouais. Mais après, je pense qu'Ava, c'est une femme courageuse, donc je pense que ça ne sera pas du genre à me dire on n'en parle pas, quoi. Donc bon, on verra. Mais le mélange DJ Actu, je ne sais pas ce que ça peut donner, quoi. Hein? Bon, est-ce que vous, ça va la vie, sinon? On va lancer. On est bien ce matin, on n'est pas trop long là. Votre vie, parce que c'est bien beau tout ça, mais ce qui est important, c'est vous. Tranquille. Ça va mixer du Beru. Ah, tiens, elle m'a demandé un peu mes influences. La pauvre, je lui ai donné que les trucs un peu rock. Je sais pas ce qu'elle va faire de ça. Ouais, ça va à peu près. Bof, bof, qu'est-ce qui se passe, Cyril? Tranquillement, télétravail, trop claqué pour bosser aujourd'hui, mais pareil, viaduc. J'attends encore mon tapis de match. C'est quoi un tapis de match, Mme Gesmer? Ah, la réunionnite, Tom Thompson, j'ai vu que tu avais souffert d'une série de réunions hier, ouais. J'ai pas dormi la nuit à cause d'un jeu vidéo. Oh, la jalo, à qui te dis-tu, on connaît. Quand je vois le sommaire, ça grince un peu. Ouais, c'est il y a des sujets un peu lourds, mais il y a des choses intéressantes. Oh, ça va aller, vous inquiétez pas. Examen de chimie orga demain. Salut Alexandra, tu vas bien? Un tapis de marche! Ah oui, le fameux tapis de marche. Ah, un enterrement, Mathieu Force. La famille. Petit mal de gorge. Je vais chercher mes premières lunettes mitigées. Bah, Marine, c'est bien les lunettes. Je vois rien, moi. J'ai des lentilles, là, mais je suis un gros. Alors, je suis un gros mytho, hein. Ça. Je suis Miro. Je suis un gros Miro. Je suis un Miro mytho. C'est marrant, ça peut être un personnage d'animé, ça. Miro mytho! Le mec qui voit rien et qui invente des histoires. Pour être cool, ça. On m'a volé mon vélo. Ça, c'est pas cool, ça. Ah, c'est con, ça. Mais moi, ça m'est arrivé qu'on me vole des vélos. Ah putain, t'as la haine à chaque fois. Parce qu'en fait, tu les aimes, ces petites bêtes, là, ces petits. Les vélos, là. Ah, tu t'y attaches, quoi. Ah, t'es en colère hein, quand on te vole un vélo. Force. Un plaisir d'écouter ce live le matin au boulot, au milieu des vignes. Salut Rémi Claire. On n'a pas tous la même vie. Il y en a qui sont au grand air et tout. Oh. 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 Est-ce qu'on envoie de la force à Licorice? Petite déprime en ce moment de retour d'un an et demi à l'étranger. Oh, ça devait être une belle expérience. Je viens d'être diplômé d'un master. Bah, c'est des bonnes nouvelles, ça. Mais c'est la galère pour trouver un emploi. Alors, force. Hein, on est nombreux à connaître ça. Je suis chez mes parents en attendant de trouver un sport. C'est sport, hein, c'est ça? Je n'ai plus de potes sur l'île et avec les actualités géopolitiques mondiales, ça me déprime encore plus, mais gardons espoir. Tout ça va s'arranger, les choristes. Je suis à 5 mois de ma troisième grossesse et je me tape la grippe A. Ah oui, Ariette. Mais normalement, quand tu es enceinte en France, on te conseille fortement d'être vaccinée. Normalement, la vaccination, on en parlait avec une docteure hier, devrait te permettre d'avoir une grippe moins forte, quoi. Est-ce que c'est le cas? Voilà. Bravo pour la troisième grossesse, puisque nous allons parler ce matin du fait que les Français et les Françaises ont de moins en moins d'enfants. T'es pile poil dans l'actu, hein? Je suis vacciné. Voilà, Ariette me dit je suis vacciné, heureusement. Je crois que je pense que quand t'es enceinte en France, justement, comme ça, t'as des petites mesures de précaution, ouais. Devinez qui va être papa, nous dit le gros Pablo. Est-ce que ce serait pas le gros Pablo? Félicitations. Ça va réarmer fort ce matin. Yeah. Ah, ça c'est chiant ça. Le proprio revend l'appartement que je loue, je vais devoir déménager, j'ai la haine. Bah tiens, dans l'équation pourquoi les enfants, les parents, les Français font moins d'enfants, il y a l'équation logement, bien sûr, on en parle régulièrement ici. C'est l'un des. Il y a des études là-dessus, hein, qui montrent que c'est pas tant le désir d'enfant qui baisse en France quand tu demandes aux Français combien d'enfants ils veulent. En général, le désir d'enfant est toujours là. Par contre, on a une société qui est peut-être pas. Qui donne, qui ne, ne, ne permet, qui le permet peut-être pas, qui ne donne pas forcément envie. Dans cette équation, il y a là le difficile accès au logement, location ou achat. L'effort à faire pour se loger en France aujourd'hui est beaucoup plus important en termes financiers que pour les générations précédentes. Ça, c'est un vrai sujet. On va en parler, il y a un article dans le Figaro là-dessus ce matin. C'est vrai que là, franchement, le troisième, je sais pas où on va le mettre, il va falloir sûrement quitter l'île de France, voilà, me dit Ariette. C'est de plus en plus rare, hein, les familles au-delà de deux enfants. Je sais pas, enfin, oui, c'est ce que disent les chiffres, mais je sais pas si vous l'avez constaté dans votre quotidien, les familles au-delà de deux enfants. Hein, il y a de moins en moins, j'ai l'impression. Quand je vois dans la rue des parents avec trois enfants ou plus, ben on regarde quoi, en fait. Ouh! Voilà. Comptez pas sur moi pour réarmer, j'ai 25 ans, que des déceptions amoureuses, un appart pourri, un taf pourri. Le t'as su. D'abord, t'as le temps, hein. 25 ans, c'est très jeune, hein. T'as le temps d'avoir des enfants. Et puis, c'est un cheminement personnel, hein. Un jour, tu rencontreras peut-être la personne et tu seras peut-être dans un contexte de vie qui te donnera envie de vivre cette aventure un peu folle. Ne jetons pas l'eau. Non, jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Rien à voir, mais bon, ça parle de bébé. Je me suis dit que ça pouvait se placer. Ah, j'habitais Paris. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai dû bouger en grande couronne pour que tout le monde puisse avoir sa chambre à grand classique. Voilà. Dans ma boîte, plus il y a de jeunes, me dit Nucci, moins il y a d'enfants. Les collègues de 60-50 ans ont 3-4 enfants. 50-30 ans, 1-2 enfants. Et les plus jeunes, on essaie déjà de se loger. Voilà. On va en parler ce matin beaucoup de ça. Bon, et si on lançait le sommaire, ça vous va les beaux gosses? De l'actualité? Alors oui, alors ça, il y a aussi le contexte. Alors le contexte, je sais que on parlait, le contexte, hein, la société anxiogène, les inquiétudes environnementales, le contexte géopolitique. Mazorx, c'est quand même plus une question d'envie. C'est même plus une question d'envie d'avoir les enfants ou non, me dit Mazorx. C'est une question de contexte de vie actuel qui ne donne pas envie de laisser ses enfants dans une potentielle merde. Le contexte économique, pour moi, il est réel. C'est-à-dire que, franchement, putain, mais je suis flou, hein. Peut-être que je vais monter un peu la lumière. Le contexte économique, il est réel. Hein. Le fait d'avoir une difficulté à trouver un emploi, de pouvoir s'assumer financièrement, de pouvoir trouver un logement, si ça pèse pas sur le désir d'avoir un enfant, hein. Je ne sais plus comment je m'appelle. Donc ça, c'est sûr. Hein. Le fait aussi qu'on fait des études plus longues qu'avant. Donc ça peut reporter aussi l'âge du premier enfant, l'âge auquel on a un premier enfant, et plus tu attends, parce que la vie est ainsi faite maintenant, hein, que tu arrives sur le marché du travail plus tard, et donc que tu as ton indépendance économique, financière plus tard aussi. Plus tu attends pour le premier enfant et plus ça va biologiquement notamment faire que tu auras peut-être moins d'enfants que si tu commences à en avoir plus tôt. J'enfonce une porte ouverte. Après le contexte géopolitique, alors là, bon, moi je suis pas convaincu par ça. C'est-à-dire que on vit dans un monde qui est anxiogène, qui est dur. Il a toujours été. Hein. Alors je spoil, ça l'a toujours été. Hein, si vous voulez qu'on liste les crises, les guerres, les épidémies qui émaillent l'histoire de l'humanité depuis que l'humanité est humanité. Voilà. Si on arrête de se regarder notre petit nombril, nos ancêtres ont parfois connu bien pire. Voilà. Et ils ont fait des enfants. Voilà. Donc pour moi, c'est pas l'argument majeur. C'est pas l'argument majeur. Ce qui change, c'est qu'on est juste plus au courant. On est juste plus au courant parce que comme on est bombardé d'infos, et il faut s'en protéger. par les chaînes d'infos en continu, par les médias sur Internet, par les notifs, par les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Alors, on est plus au courant que c'est la merde. Ça a toujours été la merde. La vie est un truc comme ça, très anxiogène, très compliqué, hein. C'est ce qui fait la beauté de la vie, d'ailleurs. C'est une espèce d'alternance de petits miracles et de choses magnifiques, et puis de coups très très durs. Ouais, c'est vrai qu'ils n'avaient pas Trump, j'avoue. Pandarou, ils n'avaient pas Trump. Vous voyez ce que je veux dire? On est aussi plus informé qu'on ne l'était de l'état du monde. Aujourd'hui, la moindre crise géopolitique, à l'autre bout du monde, t'es au courant. Voilà. Hein, quand je vous raconte l'Iran, ce qui se passe en Iran, et on en a beaucoup parlé ces derniers jours, ouais, dans le chat, il y a des gens qui disent, oh là là, c'est affreux, c'est horrible. Bon, bah, il y a quelques siècles, on parlait pas de ce qui se passait à l'autre bout du monde, quoi. Donc on était moins impacté par ça aussi, quoi. Donc, pas tellement que le monde est devenu plus dur, pour moi, il l'a toujours été. C'est juste qu'on est un peu plus au courant. Et du coup, oui, ça peut créer un climat aussi qui fait qu'on se pose la question, mais à quoi bon? Alors, mais la réponse de l'humanité à tout ça, parce qu'attends, on continue à faire des enfants. Hein, on fait moins d'enfants. Dans quasiment tous les pays du monde, d'ailleurs. Hein. C'est pas qu'on fait plus d'enfants, on fait moins d'enfants. Mais on continue à avoir des enfants. Et quelque part, un homme, une femme, un couple, quel qu'il soit, qui est dans ce désir d'enfant, c'est un mélange de plein de choses, de paris, sur l'avenir, de foi en l'humanité, hein, sans connotation religieuse, hein, de se dire que malgré tout ce qu'on dit de la difficulté de vivre, eh bien, il faut imaginer Sisyphe heureux, comme disait Camus, c'est-à-dire que la vie vaut la peine d'être vécue malgré tout. Voilà. Nelling, tu oublies le dérèglement climatique et l'effondrement du vivant. Bien sûr que j'oublie le dérèglement climatique, bien sûr, je ne suis absolument pas au courant, je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr, non, non, c'est englobé dans tout ça. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Rappelons-nous qu'en France, sous la Seconde Guerre mondiale, alors qu'on est en pleine Seconde Guerre mondiale, alors que l'Allemagne nazie essaie de prendre le contrôle littéralement du monde entier, on fait des gosses à tire l'arigot en France. On fait des gosses à tire l'arigot. Donc il y a aussi un côté, avoir des enfants, constater des naissances, c'est aussi finalement une foi en la vie, en l'humanité, malgré tout le reste. Mais après, on peut lister effectivement toutes les raisons pour lesquelles il ne faut pas avoir d'enfant. C'est qui cette tire-larigot? C'est une amie. Voilà. Bon, on a un peu commencé là le sujet, hein. Bon. Est-ce qu'on ne ferait pas le sommaire plutôt d'abord? Alors l'Iran, j'aurais pu vous en parler ce matin. J'en ai parlé hier, avant-hier, vendredi. Ce matin, il n'y avait pas vraiment d'article qui faisait avancer le schmilblick. On remettra une grosse dose demain. Voilà. Mais ce matin, les articles disaient la même chose qu'hier, à savoir répression ultra-violente du régime iranien, voilà. Des centaines, sans doute des milliers de morts, impossibilité d'avoir des bilans précis pour l'instant, vu la chape de plomb qui s'est abattue sur le pays. Salut Étienne, tu vas bien? Avec la coupure d'Internet notamment, décidée par ce régime, le régime des mollahs. Interrogation sur l'éventuelle intervention des Américains et de Trump pour accélérer la chute du régime, voilà. Les familles endeuillées, etc. Bon, tout ça, on en a parlé ces derniers jours. La presse n'ajoute pas grand-chose ce matin, et donc je vous ai pas mis d'article de côté. Qui m'écrit de bon matin? En revanche, on en reparlera sûrement demain. Ouais. Et pareil, on fait une petite prose de Trump aujourd'hui, vous voyez. Mais on a des sujets assez lourds, hein. Vous avez vu le sommaire là en bas à gauche, là. Ouais, sommaire assez lourd. Ok, on y va? Allez, c'est parti. Je vous refais un bonjour. Puisque c'est à partir de maintenant que nos amis qui nous écoutent en podcast audio vont avoir la revue de presse à partir de 15-16 h cet après-midi. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans la matinée Étienne tous les matins sur Twitch. Alors, c'est un deuxième bonjour, hein, parce que le stream sur Twitch a commencé il y a 30 minutes, mais c'est le bonjour qui vise ceux qui nous écoutent en replay et notamment en podcast audio. On vous salue, tout le monde dans le chat vous dit bonjour! Dans le chat, dites bonjour aux amis qui nous écoutent en podcast audio. Vous dites bonjour les podcasteurs, je sais pas quoi. Bonjour les gens qui ont les oreilles. Voilà. Donc, merci d'être avec nous. Vous nous écoutez tous les jours à partir de 15-16 h en podcast audio sur toutes les plateformes de podcast, les Deezer, les Spotify, les Apple Podcasts, etc. Et vous êtes super nombreux. Vous savez, chaque mois, Chaque mois, il y a 200 000 personnes. On a lancé ce petit rendez-vous en podcast audio en septembre dernier. Chaque mois, il y a 200 000 personnes qui écoutent cette revue de presse en podcast audio. C'est une dinguerie. Voilà, donc, merci à vous de nous écouter. Et on vient de commencer cette matinée, Étienne, ce mercredi 14 janvier. On va faire le sommaire pour vous dire de quoi on va parler aujourd'hui. Sam, tu n'es pas obligé de le faire. Tu le dis dans une voix enregistrée. Du coup, on l'écoute deux fois de suite en podcast. Ah oui, oui, il y a une voix enregistrée qui dit ça aussi. C'est pas grave. De quoi on parle aujourd'hui? Bon, il y a des sujets lourds. Hein, pardon, je m'excuse. Il y a des sujets lourds. Et je m'en excuse par avance. Et puis, il y a à la fin des choses un peu plus légères quand même. Alors, je vous montre. De quoi on parle ce matin? Ce sujet, il est très très lourd. C'est la une du Parisien. Alors, les mots sont compliqués à choisir. Et c'est le Parisien qui le dit lui-même. Est-ce qu'on parle de suicide forcé? Est-ce qu'on parle de féminicide? C'est sans doute les deux. Est-ce qu'on parle de féminicide indirect? En tout cas, c'est la une du Parisien. On parle de violence conjugale. On parle de féminicide. C'est un sujet dont je vous parle régulièrement, qui, à mon avis, n'est pas exposé médiatiquement comme il devrait l'être. On devrait en parler plus. Ces femmes poussées au suicide. Mathilde, Odile, en 2024, elles étaient 906 à avoir mis fin à leur jour ou tenté de le faire après avoir été harcelées par leur conjoint ou leur ex. Leur famille alerte sur ces féminicides indirects. Voilà. C'est un sujet très, 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 très lourd. Voilà. Et le Parisien le traite, je trouve, très, très bien. Je vous en parlerai tout à l'heure. On va commencer avec ça. Deuxième actu, là aussi c'est un sujet qu'on a beaucoup vu dans les journaux ces derniers jours parce que y a des chiffres en fait qui pop là-dessus sur la consommation de cocaïne en France qui explose. Voilà. La France en première ligne, c'est la une de Libé. Alors j'ai pas compris tout de suite le titre. Hier soir, j'ai lu Libération, je suis passé vite. Et puis, je viens de comprendre ce matin le titre. Hein? En première ligne. Ligne. Vous l'avez? Voilà, je ne l'avais pas. Et puis, sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi ils ont renversé de la farine sur la table? Et puis, je me rends compte que ce n'est pas de la farine que Libération a renversé sur la table, mais une autre substance peut-être, hein, proche de la farine, en tout cas dans son apparence, et qui dessine une carte de France. Ils se sont fait plaisir, Libération. C'est peut-être de la maïzena. C'est peut-être de la maïzena. Voilà, la France en première ligne. Et alors, c'est la coke, elle est partout. De plus en plus de Français et de Françaises en consomment dans tous les milieux sociaux, à la campagne, à la ville, au travail, en soirée, à la maison. Voilà. On en a déjà beaucoup parlé ici. Et bien, il y a un gros dossier dans l'IB qui essaie de comprendre le phénomène de pourquoi, comment, qui, pourquoi. En milieu festif et au travail, en ville et à la campagne, comme le montrent les témoignages recueillis par Libé, la consommation de coke se banalise dans tout le pays, plongé dans la France sous cocaïne. La poudre blanche constitue désormais le marché le plus lucratif des drogues illicites dans le pays, cible de choix pour le narcotrafic par sa situation géographique et en raison d'une hausse spectaculaire de la consommation. Effectivement, une des explications, c'est parce que le prix de la drogue, de cette cocaïne fédérale, a diminué. C'est l'une des explications. Tu as raison. Voilà. On lira ce dossier. Ouais, c'est gros dossier. Hein. Narcocratie. C'est l'édito, voilà, de Libé, avec les conséquences, au-delà de la consommation individuelle des cocaïnomanes, les conséquences de cette consommation et du trafic sur notre pays, sur notre société, sur la santé publique, etc. Voilà. Et puis alors là, feu d'artifice. Regardez, ça n'est pas un dossier. Ça n'est pas deux dossiers. Ça n'est pas trois dossiers, mais c'est quatre dossiers que je vous ai trouvés ce matin sur la démographie et la baisse de la natalité en France. Alors on a déjà parlé ici, mais il y a de nouveaux chiffres qui confirment la tendance. Voilà. Alors je vous ai mis La Croix, dossier, c'est la une, Le Figaro, dossier, c'est la une, Le Monde, dossier, c'est la une, et Les Échos, dossier, c'est la une. Bon, si les journaux en parlent, c'est que Il y a des questions qui se posent, de l'inquiétude, diront certains. Voilà. Il y a une très belle une en de la croix là, avec ce couple et cette jolie promesse du ventre arrondi de cette femme ici en clair-obscur. Quel poète! Quel poète! Ça, c'est improvisé, hein, rien n'est écrit. Hein. C'est fou. Hein. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le solde naturel de la population française, la différence naissance-décès, est négatif. Voilà, constate l'INSEE. Voilà. C'est là. C'est pas bizarre que tous ces quotidiens en parlent le même jour ou c'est normal? Ben, c'est parce qu'en fait, le chiffre vient de sortir et la norme, c'est ce qu'on appelle une actualité, tout simplement. Voilà. Parce que ce sont des journaux qui parlent d'actualité. Et ce chiffre de l'INSEE, il vient de sortir. Les mecs, c'est pas un complot, hein. Ils s'appellent pas en disant, tiens, vous savez quoi, on va réarmer, les gars. Hé, hey, la croix, c'est l'humain. Ouais. Ouais, je te passe le mec des échos. Ouais, il y a le mec du monde en conf-call aussi. Ouais, il faudrait réarmer quand même. Hein. Faudrait ken un peu, faudrait faire des enfants. On va faire tous le même dossier le même jour. Non, c'est juste parce que l'actu vient de sortir. Voilà. T'inquiète, je sais, à la norme. Donc, la natalité en berne, hein, le lobby du ken, on pourrait l'appeler. Ouais. Donc, quand je dis la natalité en berne, c'est pas. T'as rien à voir avec la Suisse. Hein. D'accord. C'est pas la natalité qui diminue à Berne, en Suisse. C'est la natalité qui est en berne en France. Voilà. Tournant démographique, ni Stéphane d'ailleurs, oui. Tu as raison, Stéphane Berne. Tournant démographique, dit la croix. Voilà, c'est historique. Hein. Négatif pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, attention, la population française continue d'augmenter quand même. Alors, parfois, je fais la poule. Qu'est-ce que ça veut dire? Attends, il y a plus de décès que de naissances, mais la population française continue d'augmenter un tout petit peu. Ah, pourquoi? Non. Non, non, c'est pas une question d'espérance de vie. Oui, c'est les migrations. C'est grâce au solde migratoire, il y a plus d'entrées que de sorties. Et donc, grâce à ce solde migratoire, enfin grâce, il y en a qui vont s'arracher les cheveux. Hein. La population française continue quand même d'augmenter. Voilà. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire. Ah, Cotane, oui, grâce, ouais, c'est vite dit. Hein. On t'attendait, Cotane. On t'attendait. Ah, on t'attendait. Ah oui, c'est toi aussi. Tout à l'heure, j'ai vu ton message qui disait pareil pour les hommes. Hein, quand je parlais des féminicides et des femmes qui se suicidaient en raison du comportement toxique de leur compagnon, mari ou ex. Et tu me dis, ah oui, les hommes aussi. Hein. Ouais, c'était toi déjà. Ouais, je t'avais remarqué. Merci pour ta contribution. À nos débats. Donc, la croix, la France entre dans un tournant démographique. Voilà. Le monde, plus de décès que de naissances en France. Le désir d'enfants en question, parce que je vous le disais, les Français continuent de désirer avoir des enfants, mais même le désir d'avoir des enfants, il baisse. Tu vois. Donc, c'est-à-dire que les Français ont moins d'enfants qu'ils ne voudraient avoir pour des raisons socio-économiques, mais le désir d'enfants baisse aussi. On veut moins d'enfants qu'avant. Voilà. Donc, le monde consacre un sujet là-dessus. Il y a un édito là-dessus sur ce que le monde appelle un défi politique. Vous avez la une du Figaro sur le même sujet. Voilà. Démographie, pourquoi la dénatalité s'aggrave en France. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'ensemble du territoire français comptabilise plus de décès que de naissances, chute de la natalité inquiétante. Voilà. Tournant démographique. Il y a quelqu'un dans le Figaro, qui est-ce d'ailleurs, qui nous parle, un économiste qui nous dit « On déplore la dénatalité, mais on continue de désinvestir dans la famille. » Est-ce que les politiques publiques peuvent avoir des incidences là-dessus? Vraie question. La question du logement, merci le Figaro de le rappeler. Dans l'équation, la question du logement est hyper importante. Il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de se loger que dans le passé. Voilà. On ne se reproduit pas en cage. Le logement, pierre angulaire de la démographie. Les témoignages de couples qui reportent ou abandonnent un projet de naissance en raison du logement affluent. Hein, des chercheurs commencent à établir le lien direct entre baisse des naissances et crise de l'immobilier. Merci le FIG. Point d'exclamation le Figaro. Il y a un abonnement de fou en ce moment là pour 2 euros par mois, qui est juste incroyable. On sera avec nos amis du Figaro vendredi. Et puis, Démographie, la grande bascule, encore un dossier dans les Échos, voilà, avec des chiffres, des courbes. Voilà. Donc, pardon, j'ai été un peu long là-dessus, mais vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de dossiers. Et je me dis que bah, tous ces dossiers, ces articles vont nous permettre peut-être d'avancer un petit peu sur notre compréhension du sujet, hein, avec tous ces regards. Alors, j'ai des choses un peu plus positives, entre guillemets, à la fin, avec deux actus que je vous ai mis de côté. D'abord, un portrait très bien écrit dans La Croix, journal génial, que j'aime beaucoup, d'un monsieur qui est enquêteur en criminalité environnementale. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Enquêteur en criminalité environnementale, un travail de l'ombre pour endiguer les trafics lucratifs, alors notamment autour des animaux ou de la pollution, dans les organisations criminelles, quand les criminels en fait s'attaquent à l'environnement, voilà, pour se faire de la thunasse. Voilà. Le mec cache son visage parce qu'en fait c'est un enquêteur... Il veut garder son identité secrète. Et le portrait est passionnant. Voilà. Camille, t'inquiète, des bonnes nouvelles, j'en ai plein pour samedi. Donc, parce que le samedi après-midi, maintenant, il y a la revue de presse des bonnes nouvelles. J'aurais pu effectivement mettre ces actus samedi dans la revue de presse des bonnes nouvelles, mais à un moment, hein, si je ne vous parle que des choses qui ne vont pas le matin du lundi au vendredi, vous allez me dire, Samuel, tu pousses le bouchon un peu loin quand même. Et puis on finira avec un musée du jeu vidéo qui s'ouvre en France. Alors c'est pas le projet, vous savez, de... Comment s'appelle le créateur de contenu français qui vit au Japon, là, qui a un projet de fou, là, hein, qui va se... Tev. C'est pas le projet de Tev, hein, ici Japon, voilà. C'est un autre musée, voilà, qui vient d'ouvrir, lui, ses portes, ça y est, il est ouvert, à Arcueil. Voilà, voilà, bah, c'est ce dont on parle antique. Dans le chat, un musée du jeu vidéo a ouvert en décembre à Arcueil, géré par... MO5 Association. MO5, c'est quoi ça ? Existant depuis plus de 20 ans, on verra ça. Il a l'air magnifique et n'a pas l'air, je pense, de vouloir ressembler à un centre commercial, mais à un vrai musée informatif et ludique. Voilà, ça a l'air pas mal. Pas mal. Voilà, Association MO5. Et en vrai, l'article, il est court l'article, mais ça donne envie. Ah, MO5, comme l'ordinateur, le vieil ordi, là ? Comme TO7 ? Mais j'ai eu ça, moi. Mais j'ai eu ça, moi. Le TO7, là. Oh ! Oh ! Ordinateur. TO7. Mais j'ai eu ça. Mais je connais ça ! Mais c'est toute ma jeunesse. Mais oui, oh, j'étais fasciné par ce truc. Il y avait un stylet, voilà, il y avait un lecteur à cassette parce que tu chargeais les programmes et des cassettes audio, des petites cassettes audio. Ça faisait... Mais c'était début de l'informatique de personnel, quoi, des MO5. Et alors le MO5, alors, ah ça je le connais pas celui-là. Waouh. Le ZX80, on se souvient du ZX80. Des souvenirs. Vous êtes vraiment des geeks. Ouais. Ouais, Amstrad, il y avait les Amstrad. Ça lisait les floppies. Les floppies, c'était après MMG. Les floppy disques, les disquettes souples, pour moi, je me rappelle d'un copain qui avait un Apple 2, je crois. Avec des floppies, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est les disquettes souples. Mais là, c'était les cassettes audio. C'est vieux, c'est vieux. Ouais. Des souvenirs. T'es sûr que les ordinateurs existaient déjà ? Mais oui. Je suis très jeune, moi. Voilà. Donc, on se penchera sur ce truc. Voilà pour le sommaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé de sommaire ? Qu'est-ce que ça vous plaît ? Bien, hein ? Apple II, c'est fin 70, début 80, ouais, c'est ça, ouais. Par là, ouais. Apple. Révolution de l'informatique personnelle. Bonjour Samuel, est-ce que tu vas faire ou est-ce que tu fais des podcasts de tes streams ? Kezox, très bonne question. Point d'exclamation podcast dans le chat. Depuis septembre, tous les jours, les revues de presse, les matinées Étienne sont en podcast audio, mesdames et messieurs, sur toutes les plateformes de podcast. Voilà. Tu me trouves beau gosse le matin ? C'est que tu dois être myope. Voilà. Mais si tu entends de ma belle voix, eh bien c'est en podcast. Folie. Ouais. Waouh, mais c'est crispé. Mais c'est scripté ces questions, dit Wispy. Ouais, c'est des gens que je paye. Il y a un viewer sur deux ici, vous êtes 2618. Il y a 1300 personnes ici que je paye. Hein. Ça me coûte un prix. Voilà. Tiens, est-ce qu'à 10h48, tu pourrais poser la question sur les podcasts, s'il te plaît? Est-ce qu'à 10h52, tu pourrais dire non, t'es pas vieux, t'es jeune, tu vois? Ça me coûte une thune. Thune de fou. Hein. Sam, tu peux nous rappeler ce que tu fais jeudi et vendredi? Oui, alors certains n'ont pas reçu leur chèque de décembre, mais parce que c'est un peu compliqué en ce moment, mais voilà. Oui, alors je sais. Alors je suis un peu en retard sur les virements. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de ça. Attendez, je mets un peu de chauffage et puis on commence la revue de presse. Non, parce que ça veut faire le fanfaron. Hein, ça veut faire le fanfaron. Ça met pas de chauffage. Ouais, on n'a pas besoin. Pourquoi du chauffage? Et puis après, ça la goutte au nez. Hein, il ne m'a pas payé pour dire ça, nous dit PGT dans le chat, mais il paraît que Samuel est plus musclé que Thibaut Inchep. PGT, tu auras ton virement avant les autres. C'est tout. Voilà, au moment. Est-ce que vous êtes prêts? On y va? Go! Est-ce que j'ai votre feu vert? Est-ce que le local a été aéré ce matin? Oui. On y va? C'est parti. Non, ça c'était l'Iran, c'était hier. Hop, on en reparlera demain sûrement. Allez, premier sujet, sujet lourd, que j'ai intitulé Suicide forcé, c'est féminicide. C'est la une du Parisien. Violence conjugale, ces femmes poussées au suicide. Mathilde Odile, en 2024, elles étaient 906 à avoir mis fin à leur jour, ou tenté de le faire, après avoir été harcelées par leur conjoint ou leur ex. Leur famille alerte sur ces féminicides indirects. Alors dans le sommaire tout à l'heure, on a vu, oui, les hommes et tout, les hommes aussi, hein. Alors, le jour où j'ai un dossier dans la presse de familles, de nombreuses familles d'hommes. Non, Alexandra, arrête avec ça, ça n'est pas le cas. De nombreuses familles d'hommes qui dénoncent des hominicides, on dirait comme ça, hein, indirects, parce que des femmes ont poussé. Leur compagnon, leur mari ou leur ex au suicide, je vous les lirai. Hein? Mais ça n'est pas rapporté. Hein? Mais peut-être que ça existe, mais manifestement pas dans les mêmes proportions. Hein? Donc, lisons ce dossier. Et peut-être l'édito d'abord, pour comprendre un petit peu le sujet, de Laurence Allez-y, rédactrice en chef du Parisien. La face cachée des féminicides. Elle n'était plus elle, elle était lui, résume Fadila en évoquant sa sœur Odile retrouvée morte sur une plage du Var en 2020. Cette femme de 50 ans a mis fin à ses jours, elle était devenue l'ombre d'elle-même, voulait disparaître, n'être plus personne. Elle fait partie de ces victimes de suicide forcé, 906 cas recensés en 2024, suicide forcé, ça semble être la terminologie retenue par la justice. Une expression pas forcément très juste utilisée pour décrire celles et quelquefois ceux, donc le Parisien parle aussi de cas masculins, mais qui manifestement, d'après les chiffres, sont moindres, hein, vous l'avez compris, qui se donnent la mort du fait de violences psychologiques et ou physiques subies au sein du couple. Certains experts osent le mot peut-être plus adapté de féminicide parfait, l'expression est affreuse. Alexandra, arrête s'il te plaît, on a compris, on est sur un sujet super grave, tu pouvais arrêter. La France fait partie des rares pays à reconnaître légalement leur existence. Une loi de 2020, ça c'est étonnant, ce que nous évoquons là est décrit par une loi. Hein. La France a fait partie des rares pays à reconnaître légalement leur existence. Une loi de 2020 a introduit l'infraction de harcèlement par conjoint ou ex-conjoint ayant conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. Hein. Il y a une loi qui en parle de ça. Délit passible de 10 ans de prison, de 150 000 euros d'amende et qui a le mérite de répondre à un vide juridique. La victime a commis l'irréparable, mais la véritable responsabilité incombe à son bourreau. 6 ans après cette loi, force est de constater, écrit la journaliste du Parisien, l'écart abyssal entre l'intention du législateur et son application, tant les condamnations demeurent exceptionnelles. 971 affaires instruites, c'est énorme, 48 seulement ont mené à un procès, selon un chiffre arrêté fin 2024. Comme pour les féminicides, le débat est ailleurs. À quoi bon reconnaître juridiquement le suicide forcé si nous ne protégeons pas réellement les victimes en amont ? Encore faut-il, pardon pour cette parenthèse que je me permets, les écouter, les victimes, les entendre, les croire. Nous sommes dans une société où la parole des femmes qui dénoncent les violences dont elles sont victimes ne sont pas encore entendues, écoutées et crues. Je pourrais vous donner plein d'exemples, hein, y compris dans notre univers, qui illustre ce que je viens de dire. Condamné après le drame ne ramène personne. La loi existe certes, mais sans moyens de prévention, sans protections effectives, elle n'est qu'un monument érigé à la mémoire des mortes. Ça, c'est l'édito qui explique bien le sujet, je crois. Et puis après, on a des exemples. Alors, ça va être des histoires très très lourdes, bien sûr, qui illustrent un peu ça. Dans son testament, Mathilde, 27 ans, désigne clairement son ancien compagnon, c'est un exemple pour que tout le monde comprenne, comme celui qui l'a détruite au point qu'elle mette fin à ses jours en mai 2025. Ce sont ses parents qui témoignent. Deux photos encadrées sur le mur à l'entrée du salon montrent une jeune femme en gros plan, le visage éclairé d'un franc sourire, de boucles blondes. Mathilde était très belle, très intelligente aussi, disent ses parents, en s'excusant d'oser un compliment. Tous ces mots semblent trop dans cette maison silencieuse, dans cette famille pleine de pudeur. Annie, la maman, se tord les mains par où commencer. Sa fille s'est suicidée le 17 mai 2025 à 27 ans. 5 mois avant d'avaler une dose mortelle de cachet, la jeune femme avait rédigé un testament à vif poignant. Si ça marche, donc suicide, je m'excuse de partir ainsi, mais cette vie n'est pas faite pour moi, a-t-elle écrit dans la lumière bleutée de son portable, ornée d'un cordon de perles ivoire. Papa et maman, je vous aime plus que tout. Mathilde nomme le responsable à ses yeux de sa mort à venir. C'est Leroy, son ex-compagnon, que la justice a condamné à 8 ans de prison pour un viol infligé alors qu'elle était endormie en mars 2021. Et enfin, elle n'a pas supporté l'après. Je veux qu'il sache que je me suis suicidé par sa faute. Je veux qu'il sache de par son avocate, insiste-t-elle. Leroy a tué toute la santé mentale qu'il me restait. Par ces mots, Mathilde dénonce clairement un féminicide indirect. Alors, je ne vous lis pas tout le dossier, vous allez dans le Parisien si le sujet vous intéresse. Voilà, je vous en lis les extraits, certains extraits. Hein. Et le Parisien rapporte donc ce qui s'est passé pendant 5 ans avant de rompre définitivement, parce qu'il y avait rupture. Hein. Et de porter plainte en 2021, ce qui est difficile. Vous savez d'abord que les affaires de viol en France sont sous-déclarées. C'est-à-dire qu'il est très compliqué pour une femme de trouver le courage, pour plein de raisons, de porter plainte, de s'inscrire dans un processus judiciaire, d'aller au commissariat ou d'aller à la gendarmerie, d'en parler à ses proches, d'être entendu, d'être écouté et d'être cru. Voilà. Donc c'est une histoire d'iceberg. Hein. Les plaintes pour viol, c'est la petite partie de l'iceberg qui dépasse pour tout. Tous les cas où les femmes n'osent pas porter plainte. Et puis après, quand il y a plainte, le nombre de plaintes qui sont judiciarisées et qui vont devant un tribunal et où il y a condamnation, alors c'est encore une toute petite partie infime. C'est ça la réalité. Et pour les hommes qui n'ont pas encore compris ce sujet, bah, il serait temps un petit peu de se mettre à jour, quoi, de faire un petit update. Voilà. Donc, cette jeune femme a, elle, trouvé le courage de porter plainte. Pendant 5 ans, avant de rompre définitivement et de porter plainte en 2021, se sont succédés les coups, des humiliations, des viols qui l'ont maintenu dans une vie de culpabilité et de violence sous emprise, dit son père, Jean, qui n'autorise son chagrin qu'à parler qu'au cimetière. Annie, la maman, cherche de son côté la force pour se lever chaque matin et les mots pour combattre 6 mois après ce matin de cauchemar où elle a découvert sa fille inanimée dans sa chambre. Elle désire porter plainte contre l'État et contre Leroy. Le premier, l'État, pour ne pas avoir secouru une femme en danger. Le second, pour l'avoir poussée à la mort. Après, il y a un portrait de Mathilde, de son histoire, de ce qui s'est passé, comment très jeune, lycéenne, elle est tombée un petit peu sous l'influence de cet homme. Voilà, le couple qu'ils ont formé, les coups, les violences, ses parents qui ont essayé de la sortir de cette spirale, et une fille qui répond « mais je l'aime ». Voilà. Donc ça, c'est tout le portrait qui est brossé par Le Parisien, jusqu'au jour fatal. Je vais à la fin de l'article, mais je vous incite à le lire si vous voulez en savoir plus, hein, sur le parcours de cette jeune femme. Les deux parents donc de la jeune femme, se regardent désemparés, chacun dans son chagrin, de part et d'autre de ce salon rempli de vide depuis le 17 mai. Voilà. Ce jour-là, les médicaments d'ordinaire sous clé sont restés sur la table. Par erreur, Mathilde s'en est saisie et elle a mis un terme, selon ses mots, à cette souffrance atroce. Elle a expliqué qu'elle ne supportait pas, en fait, de gérer l'après du viol que son ancien compagnon lui avait fait subir. Elle a mis un terme, selon ses mots, à cette souffrance atroce. Jean, c'est le papa, les yeux rougis, s'accuse de ne pas avoir compris à quel point elle souffrait. Jusqu'au bout, confie-t-il, j'ai cru qu'on y arriverait et qu'elle vivrait. Voilà. Je vous lis un petit peu sur ce sujet sensible, ce sujet très dur. Et puis on enchaînera avec un autre sujet. Il y a Hortax qui est écrit dans le chat. Et je crois qu'Hortax a raison. Hortax écrit « Il faut partir à la première violence. Verbale ou physique. » Je sais, c'est facile à dire, mais il faut des structures, évidemment. C'est là où notre société pêche. Hein. Des structures pour écouter, accueillir et aider. Pas de pitié pour ces viols psy ou physiques. Moi, je rappelle cette phrase d'Hortax. Hortax reconnaît que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais cette phrase, elle me semble importante. Il faut partir à la première violence. La violence n'a rien à faire dans le couple. Hein ? Je m'adresse aux plus jeunes qui nous écoutent peut-être en ce mercredi-là. La violence n'a rien à faire dans le couple. À aucun moment. Violence. Physique, bien sûr. Mais verbale et psychologique. La violence n'a rien à faire dans le couple. Si votre conjoint vous fait subir une quelconque forme de violence que ce soit, ça n'est pas la bonne personne. Vous devez partir. Je remonte le chat. Pardon pour un petit silence parfois, je suis en train de vous lire. Alors évidemment, hein, Hortax disait plus facile à dire qu'à faire, hein, partir de la première violence, le reconnaissait. Et Sugar nous le rappelle, malheureusement, on ne mesure pas l'emprise qu'il peut y avoir dans ce genre de situation. C'est pour ça que c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. C'est le phénomène
d'emprise.
Voilà. Au Kaido, c'est malheureusement très commun ce que nous décrivons ici. Je pense que ça doit parler à plein de gens. Hein. J'ai une amie qui a été victime de violences pendant des années, qui finalement a trouvé le courage de partir. Hein. Le mot courage est très important. Je parle de courage parce qu'elle était sous influence depuis sa rencontre avec cet odieux personnage. Hein, c'est tout le paradoxe de ce genre d'affaires, rappelle Cyril. La personne violentée aime la personne violente et a du mal à partir et à où porter plainte. C'est là où l'entourage aussi a un rôle essentiel. Hein. J'ai 20 ans, dit Dolciana dans le chat. Et c'est vrai que je l'ai compris tard, qu'à 15 ans, que ce n'était pas normal de se faire taper par son copain. Alors, quelle est la réponse de la société à ce phénomène, hein, pour permettre aux femmes justement de trouver le courage de dénoncer ces situations et de quitter un couple qui est toxique et violent? Pandarou, il y a des structures qui aident les femmes en détresse à déménager pendant que le conjoint n'est pas là, mais ça n'est pas assez, manque de moyens, de structures, exactement. Il y a une réponse sociale insuffisante. C'est une question de moyens en fait. Les associations en France réclament régulièrement plus de moyens, de budget, hein, sur ces sujets. Je lis encore quelques messages et puis j'enchaîne, même si on pourrait passer littéralement tout le stream là-dessus, quoi. C'est toujours les mêmes schémas, nous dit Onine. Dans le chat. Beaucoup de personnes vivent les mêmes choses, les manipulateurs utilisent les mêmes astuces, entre guillemets. Il faut recommander le violentomètre. Ça existe, ça, effectivement. Il y a, je crois, un outil qui s'appelle le violentomètre, en fait, qui est une série. Alexandra, stop, merci Alexandra. Alexandra, merci beaucoup, stop. C'est un outil qui permet de. Voilà, bah voilà, Framboise vient de l'écrire dans le chat. N'hésitez pas, les modérateurs, à épingler le message de Framboise. Vous pouvez télécharger ce violentomètre, en fait, qui est un outil qui permet de. En répondant à un certain nombre de questions, de voir si vous êtes dans une situation de violence, quoi. Il paraît que l'outil est très très bien. Et il est de plus en plus. Merci beaucoup. Merci Framboise. Merci Sugar. Voilà. Je vois des messages très personnels et très très forts d'habitués de la chaîne, de viewers, de viewers sur le sujet, et je trouve ça très fort, très émouvant. Merci de vos témoignages. Et donc, j'ai vu quelques messages isolés sur oui, mais ça existe aussi pour les hommes. L'article du Parisien qu'on a lu l'évoque, hein, d'une phrase. Mais pour répondre à cette interrogation, hein, si on se penche sur les affaires qui sont rapportées, sur les plaintes, sur les témoignages, le phénomène. Des violences sur les hommes par leur compagne, par épouse, fiancée, petite amie, ex, que sais-je. Voilà. Les deux phénomènes, en termes statistiques, en termes d'importance, ne sont pas comparables. Je suis le plus factuel possible sur ce sujet, qui est extrêmement sensible, mais est-ce que vous pouvez comprendre ce message, ce propos? C'est-à-dire que, à un moment, si vous êtes un peu rationnel, les chiffres sont là. Hein, ces chiffres sous-déclarés, sous-estimés. Voilà. Ça existe, mais les deux phénomènes, par leur ampleur, ne sont pas comparables. Or, votre problème, les quelques-uns qui. Oui, mais vous dénoncez pas les violences sur les hommes par les femmes. Vous ne pouvez pas, pour le dire encore plus basiquement, même s'il ne faut pas être basique sur des sujets comme ça. Vous ne pouvez pas mettre un signe égal, si vous avez fait un peu de maths, entre ces deux phénomènes. Voilà. Donc c'est pas très très compliqué en fait à comprendre ça. Ça n'est pas nier le fait que ça existe. C'est juste comprendre à un moment que si on parle davantage du sujet des féminicides, hein, donc des violences faites aux femmes, c'est parce qu'en fait, les ampleurs ne sont absolument pas comparables. Je ne comprends pas que ceux qui rabâchent cet argument de « Ah, mais vous ne parlez pas du phénomène inverse », je ne comprends pas que vous ne puissiez pas comprendre cela. Ils ne changeront pas leur avis, ils sont juste là pour trigger. Ben justement, Alastair, moi, c'est mon espoir. C'est que les quelques-uns, parce que vous n'êtes pas très nombreux, mais vous êtes très bruyants, et voilà. Et on vous voit dans d'autres contextes, sur d'autres sujets, que je connais très très bien, puisque moi, j'y ai été confronté. Voilà. Moi, j'ai bon espoir qu'à un moment, vous changiez d'avis, et que vous compreniez ça, en fait. C'est pour ça que je vous parle aussi à vous, quoi. Parce que moi je rêve hein, d'une époque justement où je ne lirai plus ce genre de propos parce que vous aurez compris en fait. Mais Cotan, c'est faux ce que tu dis. Cotan dit, moi je l'ai vécu dans ma chair parce que tu parles de ton papa qui s'est suicidé. Et tu dis, ça n'est pas reconnu et documenté de la même façon. Tu es en train de nous dire que les statistiques... Les plaintes, les procès, t'es en train de nous dire que tout ça est truqué, qu'il y a un complot, qu'est-ce que t'es en train de nous expliquer? Qu'il y a un complot sociétal, social, politique, étatique, pour cacher les chiffres, pour cacher les statistiques des violences faites aux hommes en France par les femmes. C'est, quand tu dis que ça n'est pas documenté, quand ça n'est pas rapporté, c'est ça que tu veux nous dire, mais c'est faux, et tu le sais. Et tu le sais. Hein. À un moment, l'argument de « mais moi, je connais quelqu'un, et parfois quelqu'un très proche de moi, qui est un homme et qui a subi des violences. » Mais à quel moment ça infirme le fait que, statistiquement, ce phénomène, il est moindre, tellement moindre par rapport au nombre de femmes concernées par les violences de leurs conjoints, de leurs compagnons. Ça n'infirme rien. C'est pas un exemple, même s'il est au plus proche de toi, et je peux comprendre ce que tu vis et la peine, mais ce n'est pas cet exemple qui vient infirmer le phénomène général, enfin. C'est, pardon pour le parallèle, c'est qu'est-ce qui fait froid ce matin et on nous bassine avec le réchauffement climatique. Mais c'est le même niveau d'argument. C'est le même niveau d'argument. Il faut le comprendre, ça. Moindre ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais personne des Metra Gaming n'a dit ici que ça n'existait pas. C'est même écrit dans Le Parisien. En fait, vous ne voulez pas entendre. Cette phrase, elle est folle. Bah, peut-être Demetra Gaming, d'ailleurs, que peut-être que tu ailles dans mon sens, c'est ça. Mais personne ne dit que ça n'existe pas. De même que les journées froides actuellement en France pendant l'hiver, ça existe aussi. Mais ça n'infirme pas le réchauffement climatique. Bah, c'est la même chose. C'est exactement... Oui, Demetra Gaming, pardon, j'avais compris. Excuse-moi, tu es dans mon sens. Mais c'est la même chose. Personne ne dit que ça n'existe pas. Voilà, moi je suis un peu lourd là-dessus, je me répète, parce que je pense que ça peut aussi mettre une petite graine de réflexion sur ce sujet dans la tête de certains, souvent jeunes, parce que pour connaître un peu le sujet, pour avoir été la cible de communautés assez motivées sur le sujet, je constate quand même que manifestement, ces propos, ces analyses, ces opinions viennent plutôt d'hommes, et plutôt d'hommes jeunes, voire très jeunes. Je me dis qu'en rappelant ça, ces évidences, peut-être que ça peut mettre une graine de réflexion dans la tête de ces garçons. Puisque c'est de ça dont on parle. Ok ? On aura l'occasion d'en reparler. Maintenant, on va parler de cocaïne. L'enchaînement est incroyable. Donc, la coke. Let's go. Bon, ça, c'est pas pour ceux les habitués de la revue de presse, c'est un classique depuis quelque temps. Là, il y a beaucoup d'études, pourquoi il y a beaucoup d'études en France qui disent waouh, notre pays a un problème avec la coke. Vous savez qu'on est, on est un des pays d'Europe où la consommation de cocaïne est le plus élevée. Hein. Voilà, c'est pas juste un délire de journaliste. Les saisies en France de cocaïne augmentent, ne sont qu'une toute petite partie, bien sûr, du trafic. Avec les conséquences pour la santé des individus, les conséquences sur la santé publique, les conséquences sur la violence, puisqu'évidemment la cocaïne n'est pas vendue à l'épicerie du coin, mais par des réseaux de trafiquants qui infusent leur violence dans la société, c'est un vrai sujet. Cocaïne, la France en première ligne, j'ai compris ce matin après mon premier café le jeu de mots de Libé, première ligne, ok. En milieu festif et au travail, ça consomme de partout. Campagne, ville, au boulot, à fête, le matin, le soir, l'après-midi, let's go, il y en a partout. Hein. Comme le montrent les témoignages recueillis par Libé, ça qui m'intéresse dans Libé, c'est qu'ils ont recueilli des témoignages de consommateurs. Hein. La consommation de coke se banalise dans tout le pays. Il y a un édito ou pas? Narcocratie. Ah, on peut le lire pour commencer, ouais. Voilà. Parce qu'en fait, c'est pas qu'un problème de santé ou de consommation individuelle ou de... Ah, mais moi, laissez-moi tranquille, je fais de mal à personne, hein. Ça a des conséquences, en fait, sur notre société. Voilà. Et c'est peut-être l'édito d'Alexandra Schwarzbrod qui nous en parle. Narcocratie, c'est son titre. Le narcotrafic est devenu, écrit Alexandra, l'un des pires fléaux du monde actuel. Il ne se passe pas de jour sans qu'il entraîne des règlements de comptes meurtriers et même des conflits armés. Hein, parce que la violence est concomitante, bien sûr, du trafic de drogue. Colombie, Mexique, Venezuela, l'actualité l'a montré, mais aussi dans différents coins de France, notamment à Marseille, où les trafiquants locaux n'hésitent plus à tuer en pleine rue quiconque s'oppose à eux ou représente un moyen de pression pour atteindre une autre cible. À l'exemple du meurtre de Mehdi Kessassi en novembre, dont nous avons parlé, hein, ce jeune homme qui a été abattu, sans doute pour faire peur, faire pression sur son frère qui. Et ce militant écologiste qui dénonce le trafic de drogue à Marseille. Et son petit frère a été tué en plein jour pour dire à ce grand frère, maintenant tu arrêtes. C'est là la principale évolution de ces dernières années. Le trafic n'est plus le fait de pays lointains, il n'est plus réservé aux romans noirs de Don Winslow ou Arturo Pérez Reverte. Il est véritablement entré dans notre quotidien. Hein. La cocaïne en France maintenant, c'est dans notre quotidien, enfin, de certains, entretenant et alimentant de très nombreux réseaux criminels. La cocaïne est ainsi devenue le plus important marché de la drogue en France, hein, qui est passé devant le cannabis, avec plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le nombre de consommateurs a doublé en 10 ans. Ça date, non, le frère de l'écologiste qui avait été tué? Oui, ça date de quelques semaines, hein, c'est pas la préhistoire non plus. Donc je pense que c'est bien d'en parler quand même. Quelques semaines, pas plus. Toutes les classes d'âge, tous les milieux sociaux, tous les territoires sont concernés. À tel point que le trafic de cocaïne représente désormais une menace existentielle pour notre pays. C'est pas l'alcool le plus important marché de la drogue en France? Ne nous servons pas de l'alcool pose un autre problème de santé publique. L'alcool est un problème de santé publique. Mais se servir de l'alcool pour minimiser les conséquences de la consommation de drogue, du trafic de drogue sur notre pays, ça sert à rien. Vous ne me ferez pas dire que l'alcool est une bonne chose et la coke une mauvaise. Ça n'est pas le sujet. L'alcool, c'est mal aussi. Voilà. Sauf que l'alcool est légal aujourd'hui dans notre pays, encadré mais légal, et ne donne pas lieu à des trafics. Donc déjà, ce qu'on peut enlever sur l'alcool, puisque certains veulent toujours ramener l'alcool en disant, ah oui, mais l'alcool, bah, c'est qu'il n'y a pas de règlement de compte, il n'y a pas d'assassinat, les gens ne se tirent pas dessus pour vendre de l'alcool. Voilà. Donc, à un moment, restons sur la drogue si vous voulez. Puis, si vous voulez me faire dire que la baisse de la consommation d'alcool en France tendancielle est une chose positive, bah oui, je le dis. Maintenant, c'est dit. On peut continuer sur la drogue? Vous vous trompez de débat en fait. C'est toujours partir sur autre chose pour oublier ce dont on parle. Donc, je rappelle la phrase. Après cette petite parenthèse, voilà. Le trafic de cocaïne représente désormais une menace existentielle pour notre pays, alertait en juin l'Office anti-stupéfiant. Dans un monde de plus en plus angoissant, où la performance, la rapidité, la productivité est devenue la norme, beaucoup croient pouvoir s'aider de cette béquille blanche sans avoir conscience de son potentiel de destruction et de mort. Que faire ? Agir à tous les niveaux, policiers bien sûr, mais aussi politiques et surtout éducatifs. Il faut montrer les ravages de cette drogue avant que celle-ci nous ravage. C'est la démarche un peu de Libé et de d'autres médias en ce moment sur il faut en parler, et il faut en parler beaucoup, parce qu'en fait, il faut qu'on prenne conscience individuellement et collectivement des ravages de cette drogue sur nous et sur la société. En novembre, nous avions réuni à Paris le militant Amine Kessassi et l'auteur italien Roberto Saviano, qui vit sous protection policière depuis 20 ans après que la mafia a mis sa tête à prix pour avoir dénoncé ces trafics. Alors que Kessassi évoquait la narcocratie, qui lui avait pris ce qu'il avait de plus cher, Saviano a voulu préciser le concept, la narcocratie. C'est une démocratie qui a en son sein le pouvoir économique du narcotrafic. La France, c'est ça. Alors après, il y a un énorme dossier dans Libé, on ne pourra pas tout lire, sur en fait qui sont les consommateurs de cocaïne en France. Et la réponse, je spoil, c'est tout le monde. C'est des profils extrêmement, extrêmement différents, quoi. On consomme de partout. Alors je vais essayer d'en lire quelques passages, parce que vous, le dossier fait 2, 3, 4, fait 4 pages. Voilà. En France, la coke coule à flot. Mais ce n'est pas seulement un tsunami blanc, expression choyée par les ministres de l'Intérieur successifs pour décrire les tonnes de cocaïne qui arrivent sur le littoral français, inondent les grandes villes, s'infiltrent jusque dans les campagnes désormais. C'est aussi une déferlante violente à l'image de la course à l'argent ultra concurrentielle à laquelle se livrent les réseaux criminels. Et qui frappe aujourd'hui le monde du deal à l'image de Mehdi Kessassi, assassiné le 13 novembre, vous voyez, je vous disais, c'était il y a quelques semaines, en pleine rue à Marseille. La menace représentée par le trafic de cocaïne est aujourd'hui existentielle pour notre pays, alertait l'OFAST en juin, l'Office anti-stupéfiant. Ils se sont rendus compte que OFAST, ça rimait avec GoFast ou pas ? Je pense que oui. Hein. L'Office anti-stupéfiant, ils appellent ça l'OFAST. Vous pensez qu'ils l'ont fait exprès ? C'est intéressant. La dernière étude publiée le 8 décembre par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives montre l'étendue du phénomène. Les chercheurs estiment que la cocaïne a désormais dépassé en valeur le cannabis pour devenir le plus important marché de la drogue en France. Un peu plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires générés en 2023, par exemple, estimé bien sûr. Puisqu'il n'y a pas trop de déclarations en la matière. Voilà. Il n'y a pas trop de chiffre d'affaires de comptes expertisés par les commissaires aux comptes. Pas tellement d'impôts et de taxes, d'ailleurs, payés non plus sur tout ça, je crois. 3 milliards, c'est l'équivalent du chiffre d'affaires de Nexity, leader de l'immobilier en France, ou celui encore de Coca-Cola France. Voilà, ça ne paye pas l'URSSAF. Ouais. Face à l'ampleur, la justice dispose d'une nouvelle organisation depuis le 5 janvier, le parquet national anticriminalité, organisé sur le modèle éprouvé ces dernières années en matière antiterroriste et financière. Ces données économiques faramineuses laissent entrevoir une explosion du nombre de consommateurs. Selon les derniers chiffres de l'OFDT, plus d'un million de personnes, alors c'est une estimation, a consommé au moins une fois de la cocaïne en 2023. Un million de personnes. Une masse à mettre en regard des seulement 600 000 consommateurs recensés en 2017. Donc il y a augmentation. Estimée. La France est actuellement avec les Pays-Bas, le pays qui consomme le plus de cocaïne en Europe. La France est actuellement avec les Pays-Bas le pays qui consomme le plus de cocaïne en Europe. Selon l'Agence de l'Union européenne sur les drogues, 2,7 millions de jeunes européens déclarent avoir pris dans l'année au moins une ligne de cocaïne. J'avais envie de passer ce passage, mais je vais vous le lire parce qu'il est intéressant. Sur le pourquoi du comment, notamment sur l'offre très importante de drogue et de cocaïne en France. Cette hausse spectaculaire de la consommation n'est pas une surprise. Elle est notamment la résultante d'une offre abondante, voilà, déversée dans l'Hexagone depuis l'Amérique du Sud. et avec un prix qui n'a cessé de baisser. Les derniers chiffres publiés en 2022 par l'ONU pointent une production mondiale qui avoisine les 4000 tonnes par an, un doublement en l'espace de 2 ans. La Bolivie, troisième producteur mondial derrière le Pérou et la Colombie, a augmenté de 10% les cultures de coca entre 2023 et 2024. De son côté, la Colombie a encore conforté sa place de premier producteur depuis que les FARC, hein, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, ont perdu le contrôle de la filière après la signature des accords de paix avec l'État colombien en 2016. L'ensemble de la production est désormais entre les mains des trafiquants qui n'ont comme seul objectif que le business lucratif. La destination la plus proche, les États-Unis, n'est plus un débouché prisé des narcos. Le marché est déjà assommé par la crise des opioïdes et la lutte contre les cartels mexicains n'a cessé de se durcir. À cela s'ajoute la montée en puissance de gangs français comme la DZ Mafia grâce à la vente de cannabis. Ceux-ci ont acquis suffisamment de puissance financière pour nouer des liens directs avec les narcotrafiquants sud-américains. La France est ainsi devenue une cible de choix pour les gros bonnets du trafic international, à la fois marché au fort pouvoir d'achat à conquérir et zone de transit vers le reste de l'Europe. Alors, Libé parle des saisies historiques de drogue, hein, qui sont l'un des signes du fait qu'il y en a de plus en plus en circulation en France. Souligne le prix au gramme, c'est au gramme, je crois, qui n'a jamais été aussi faible. Hein. On parlait de 90 euros le gramme au début des années 2010, comptait désormais 60 euros pour un produit en plus qui est plus pur qu'avant, qui est beaucoup moins coupé. Et pour les couler, les dealers ubérisés désormais ne cessent d'innover en utilisant réseaux sociaux, hein, et messageries cryptées qui sont fortement développées à la faveur des confinements. Comme jamais auparavant, pour comprendre d'une phrase ce qui se passe, comme jamais auparavant, la coke est à portée de nez des Français. Il a jamais été aussi facile de s'en procurer et ça n'a jamais été aussi peu cher. Alors, qui consomme? Tout le monde. Le profil des consommateurs sont variés, cassant l'imaginaire d'une drogue qu'on disait autrefois réservée aux élites, le mot est affreux, aux bourgeois des centres-villes, comme l'a évoqué en novembre Emmanuel Macron. Pourtant, la poudre blanche est aussi consommée dans les villes moyennes et jusque dans les zones rurales. L'expérimentation de cocaïne touche désormais des personnes travaillant dans tous les milieux professionnels. Contrairement aux années 2000, plus aucun secteur d'activité ne se distingue par une proportion significativement inférieure à la moyenne. En fait, tous les milieux sont touchés. Elle se banalise aussi. Plus des trois quarts des Français, 76%, considèrent que la cocaïne est une drogue dangereuse des centres d'expérimentation. Un chiffre en recul. 10 ans avant, ils étaient 85%. Il n'y a que, entre guillemets, 76% des Français qui estiment que la cocaïne est dangereuse, 10 ans plus tôt, ils étaient 85%. Voilà. Et puis dans Libération, on ne va pas tout lire, mais il y a plein de témoignages de gens qui consomment. Voilà. Il y a plein d'exemples qui peuvent nous aider peut-être à comprendre qui consomme, pourquoi, comment. Là, on a un jeune homme qui habite Montreuil-Bellay, Maine-et-Loire, 3700 habitants. Il dit, même chez moi, aujourd'hui, je trouve plus facilement de la coke que du shit. Ce grand timide demandeur d'emploi raconte dépenser 2000 euros par mois en cocaïne. Comment il fait? Qu'il finance avec la vente de sa maison. 60 euros le gramme, mais en achetant en quantité, j'ai pu la toucher à 38 euros le gramme. Donc, ouais, il tape dans ses économies. Ouais. Je vous choisis quelques témoignages. Voilà. On est. À Baugé en Anjou, 11 000 habitants au nord de la Loire, Noël, consommateur, voilà, se fournit via le bouche à oreille. En quelques heures, ils viennent, il y a des gars de la Flèche à 20 km qui livrent. Avant, pour avoir son produit le week-end, il fallait s'y prendre une semaine avant. Ça n'a jamais été aussi facile de s'en procurer. Lily, 39 ans, 20 ans de consommation, dit « Les dealers t'envoient des promotions. » Puis beaucoup expliquent aussi que quand tu donnes ton téléphone à un dealer, quoi, après, les dealers s'échangent les numéros entre eux et tu reçois régulièrement des offres, des promotions, quoi. Parce qu'elle a un puissant stimulant et qu'elle est très facile d'accès, la coke s'est immiscée hors du contexte festif, dans les interstices de la vie quotidienne. La consommation dans le cadre du travail n'est pas un phénomène tout à fait nouveau, dit-on du côté d'une assoce. Ça fait 4 ou 5 ans qu'on voit de plus en plus de personnes avec ces problématiques. C'est lié à la pression professionnelle chez les personnes qui ont besoin de tenir un rythme soutenu. Selon un psychanalyste et psychiatre, Pierre Sidon, ça s'est généralisé à tous les secteurs, toutes les catégories socioprofessionnelles. Étienne, par exemple, 41 ans, cadre dans une grande entreprise à Paris, explique que la prise de cocaïne s'est mêlée à un perfectionnisme maladif chez lui. Je venais de commencer un nouveau travail, je ne me sentais pas à la hauteur, très impressionné par certains de mes collègues, je ne voyais pas tellement le problème, donc de prendre de la coke. C'est quand j'ai rencontré ma compagne actuelle que j'ai réalisé que ça n'était pas normal. Voilà. Rembobine celui qui se décrit comme un mec, comme un autre, sans problème ni traumatisme. Pour Pierre Sidon, le psy, il y a tout de même des facteurs subjectifs à la consommation. Tout le monde ne va pas succomber de la même façon à la tentation. Seraient plus affectés ceux qui n'ont pas confiance en eux, voire qui ont tendance à se dévaloriser. Les effets de la drogue donnent le sentiment de pouvoir être plus efficace. Ça correspond à l'idéologie capitaliste et aux exigences de productivité de plus en plus importantes avec du management et des objectifs irréalisables. La prise de parole sur le sujet s'est considérablement libérée ces dernières années. De plus en plus de personnes comme Marie ou Étienne s'expriment et assument. Non, Jalo, désolé, j'ai vu ta question, mais je vais y répondre très vite. Désolé de reposer la question. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec l'adoption du Mercosur comme l'origine principale et l'Amérique du Sud? Le Mercosur n'est pas adopté. Le Mercosur n'est pas adopté. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devait se déplacer, elle a peut-être déjà fait, l'a fait, là, ça devait être pendant ces jours-là, pour signer avec les pays sud-américains du Mercosur, malgré l'opposition de la France et d'autres pays, mais ils sont devenus minoritaires. Mais ça n'est pas encore ratifié, et il faut que ce soit ratifié par le Parlement européen. Donc le Mercosur dont on parle depuis 30 ans, ça fait 30 ans que les discussions. Ah bah voilà, Camille me dit que ça se fera samedi. Donc samedi, Ursula von der Leyen ira signer, mais après il faudra la ratification par le Mercosur. Donc le Mercosur, qui n'est toujours pas applicable, ne peut pas avoir de conséquences, bien sûr, sur ça. Et puis le Mercosur porte sur des produits industriels, de services agricoles. Je ne crois pas que la feuille de coca soit été inclue dans les discussions sur le Mercosur, a priori. Ou alors j'ai raté deux, trois articles. C'est pour ça, alors l'important, pourquoi on en parle? Parce que c'est important. Voilà. Ils servent, ces témoignages dont on parle, Étienne, Marie, dont on a entendu, quoi, ils servent à appuyer la prévention nécessaire et les soins. Un jour, je suis tombé sur une vidéo YouTube d'un homme, même profil que moi, qui témoignait dans une émission de télé. Il racontait ma vie. À entendre son témoignage m'a permis aussi de me rendre compte de mon problème, dit Étienne. Étienne, c'est le cadre, je crois, de 41 ans, là. Par son expérience, ce dernier souhaite porter un message. Ça ne sert à rien de pénaliser les clients. Ce qu'il faut, c'est les accompagner. Et il y a sûrement un déficit en France dans l'accompagnement des cocaïnomanes. Alors, dans le cas du travail, dans le cadre de la fête, ça c'est évident, il y a un témoignage de fêtards qui explique. Voilà. Souvent d'ailleurs, c'est une consommation de plusieurs produits. Hein. Il y a alcool, il y a cocaïne, il peut y avoir aussi ecstasy, MDMA. Dans le cadre festif, souvent, c'est pas que la coke, expliquent les consommateurs. Qui consomme? Selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, en 2023, après les 25-34 ans, 13,9%, les classes d'âge les plus concernées sont les 35-44 ans, 13,8%, les 45-54 ans, 7,4%, donc après 45 ans, il y en a moins, et les hommes restent 2,5 fois plus nombreux que les femmes à avoir consommé, Voilà, même si la part de consommatrice ne cesse de croître. Alors vous avez plein de témoignages en Libé, je ne vous les lis pas tous, hein. Donc il y a les questions sur sa santé, sur même son portefeuille. Vous avez vu l'argent que certains peuvent y mettre. Et puis reste l'enjeu éthique de contribuer à des réseaux criminels violents qui capitalisent sur l'esclavage d'une frange pauvre de la population. Hein, c'est comme si j'achetais des fringues sur Shein, reconnaît Amélie, t'as beau avoir regardé toutes les séries sur les narcos qui parlent de l'exploitation des femmes, des mules qui peuvent crever en trimballant de la cocaïne dans le bide. Quand tu consommes, tu oublies tout ça. Thibault, lui, dit que il sait pertinemment que c'est un poison qui porte l'économie des pays producteurs aux pays récepteurs, mais quand tu te déglingues, ton problème, c'est toi au jour le jour, et c'est pas le gars qui fait pousser la feuille de coca sur la cordillère des Andes. Sur son téléphone, Léo fait défiler les messages. 3-4 numéros inconnus lui envoient des textos chaque semaine avec le menu des produits disponibles et leurs tarifs. Dans la métropole lyonnaise, le 2 g de cocaïne s'achète 30 euros, le gramme 50 euros, les 3 grammes 120 euros. Attends, on est à 40 euros là, le gramme du coup. L'offre s'adapte au petit budget en proposant des doses fractionnées à partir de 10 euros, parfois même 5 euros. Voilà. Il est alors difficile de résister à la tentation. Tu as un premier contact, puis ton numéro circule, explique Léo. Voilà. En tant qu'usager, ça met en difficulté d'avoir de la coke à disposition H24. Tu peux prévoir l'heure où tu reçois tes grammes. Merci, je remercie aucun sub. Merci Mr. John, merci Ronan, merci Nevik pour ton message. Merci Lolo Kyoto, merci Pompidou 2027, merci. Je pense que pendant le sujet des féminicides tout à l'heure, j'ai pas remercié les subs. Merci Chiguridu, merci Ezekiel, merci Coco PB. Merci beaucoup. Le dossier est très complet, hein, vous irez lire dans le Libé. Côté hôpital, aux urgences du CHU de Bordeaux, la cocaïne surgit rarement comme le motif officiel de consultation. Elle se glisse derrière une suspicion d'infarctus chez un homme quinquagénaire qui a recherché un coup de peps. Elle apparaît au détour de l'aveu d'un trader hospitalisé pour une agitation sévère qui explique avoir plongé pour tenir la cadence. Ou chez un étudiant en pleine descente étendu sur un brancard après une chute qui n'a jamais vraiment su arrêter de faire la fête. Trois trajectoires, aucun profil type. La cocaïne n'est plus l'apanage d'un milieu. Elle traverse les âges, les classes sociales et arrive de plus en plus souvent en ambulance. Aujourd'hui, on voit débarquer aux urgences des gens comme vous et moi, hein, étudiants, retraités, ouvriers, cadres, lycéens. Le spectre est large. L'hôpital lui-même n'est pas un sanctuaire. Il y a eu des histoires. Glisse un soignant avec des internes, avec des anesthésistes, avec des dentistes. Le stress d'abord, et puis parfois un accès plus facile à certains produits comme la kétamine. Alors comment on peut accompagner et aider les consommateurs? Une fois la consommation confirmée, les soignants tentent de créer du lien. Orientation vers une assistante sociale, un addictologue, passerelle avec l'hôpital psychiatrique, mais ce livret reste parfois un obstacle. Certains malades minimisent, d'autres mentent. Magali Labadie se souvient d'un couple de magistrats qui hésitait à consulter par peur que ça se sache. Voilà. Lui a fini en réanimation. Pour autant, les langues se délient davantage qu'il y a quelques années, signe qu'un tabou est tombé. Thomas Meynier, c'est un soignant, se souvient d'un patient venu récemment pour un plâtre et qui a décliné un arrêt de travail. Pas besoin, docteur, je suis dealer. Ah. Vous voulez un arrêt de travail? Non, pas besoin. Waouh. Voilà. Donc, voilà, on est sur un constat là. Alors, ce qu'il n'y a pas dans ce dossier, et qu'on évoque parfois, c'est que faire. Hein? Quelle mesure? Répression? Aller à la source sur les pays producteurs? Plus de sensibilisation? Plus de la consommation des consommateurs? plus de sensibilisation des consommateurs, plus d'accompagnement. Ça, c'est tous ces sujets dont doivent s'emparer les politiques, quoi. Il y a M. Vitic13 qui dit un truc intéressant dans le chat. Si vous organisez des événements festifs, n'hésitez pas à faire venir des associations de réduction de risque pour encadrer et donner accès aux informations et aux potentiels consommateurs. J'ai soif de café, bordel. Je vous lis un petit peu. Neo Passenger, c'est fou ce sujet, j'en ai jamais entendu parler autour de moi, je dois vivre dans un cadre protégé de ces merdouilles addictives. Je vous lis. Hein. Lutter contre le narcotrafic, dit Pandarou, me semble illusoire. Je pense plutôt qu'il faut résoudre les problèmes sociaux, économiques, de détresse mentale, etc. Les mêmes causes engendrent les mêmes effets. Moi-même, je confirme, dit Corentin Baguette, je travaille dans l'industrie du jeu vidéo. Et là aussi, dans les backstage et le business, genre salon pro, la cocaïne est presque un signe de réussite, mais surtout d'aisance financière, c'est assez fou à voir. Je lis encore un ou deux messages. Vive le leur, perso, je connais pas mal de monde en ayant pris ou qui en prennent encore. C'est très souvent des métiers de bureau ou de restauration. Soirée tech, ça tourne tellement, dit South Dark, limite tu te fais harceler par les vendeurs. Merci monsieur Salle, 59. Le monsieur Salle, oui, je me disais, tiens, c'est marrant comme le streamer que j'aime sur GTA RP. Je me disais, tiens, c'est marrant, c'est quelqu'un qui a volé son solo. Non, c'est lui. N'hésitez pas, les amis, à follow monsieur Salle sur Twitch qui vous offre tous les jours du divertissement sur GTA RP. Voilà. Il faudra que je relance mon arc GTA RP qui me manque tellement. Mais il y a plein de trucs de mettre à jour sur le truc. C'est un logiciel pas compliqué. Hein. Il faudrait que je m'en occupe aussi. Monsieur Sal, merci d'être avec nous. Et le lobby du café, monsieur Étienne, je ne peux pas en parler. Je ne peux pas en parler. Je suis moi-même totalement addict. Je ne maîtrise pas ma consommation. Je suis un jouet dans les mains des trafiquants de caféine. Merci Poulet 3000. Voilà, je ne peux pas témoigner. C'est trop dur. Je suis pas prêt. T'avais pas arrêté? Si. Ou diminué? Si j'avais arrêté, j'avais diminué. J'ai repris. Je ne peux pas m'en passer. Je suis totalement accro à la caféine. Ah non, j'ai essayé. Ouais, Game Prodi. Est-ce que t'es vraiment addict? Est-ce que tu pourrais pas remplacer par le thé? J'ai essayé. J'ai essayé pendant plusieurs mois de boire du thé à la place. Ah non, c'est, j'adore le goût, j'adore l'effet que ça a sur mon cerveau. Je kiffe. J'ai rechuté. Combien par jour? À mes grandes heures de matinale, quand je me levais à 2h du matin pour la radio ou la télé, j'étais monté à 13 jours, 13 cafés. Là, j'ai beaucoup diminué, je suis à... max 5 par jour. Ce qui est cool en vrai. Voilà. 5, max. Mais pendant des années, on était pas loin du 13, ouais. Ah, mais ça dormait 3 heures par jour, hein, donc... Allez, sujet suivant. D'ailleurs, je vais me faire un petit café. J'en ai pour 10 secondes. La machine n'est jamais très loin ici. Le transit est comment? Ah bah du coup, le transit marche bien. Hein. Pas. Désolé. Ah ça, ça c'est sûr. J'arrive. D'ailleurs, si jamais vous voyez Joe qui passe dans le chat, Joe, il doit me rejoindre au studio là. On doit aller faire la reconnaissance technique du stream du Figaro de vendredi cet après-midi. Et en général, quand on arrive, il doit me rejoindre au studio, il fait un café. Il n'y a plus de café. Je viens de lancer ma dernière capsule. Si jamais vous voyez Joe passer dans le chat, vous lui dites qu'il n'y a plus de capsule. Parce que je sais qu'il n'aura pas son café en arrivant et ça pue quoi. Ça y est, il est coulé. Le café est coulé, nous sommes sauvés. Mais l'addiction, qu'est-ce que c'est? L'addiction, c'est ça. Alors évidemment, le café est quand même un produit infini. C'est quoi tous ces coussins? C'est le confort des petits vieux, ça. J'aime avoir des coussins. Moi, j'aime que mes fesses soient confortablement installées. Je reste des heures dans ce fauteuil, donc voilà. L'addiction, c'est ça. Alors évidemment, le café est un produit autrement moins problématique que celui que nous venons d'évoquer, là. Mais quand tu sais que c'est à certaines doses, pour des raisons notamment digestives, d'ésophage, dû à l'acidité du produit, ce serait bien d'arrêter la consommation d'un produit qui est le café, voire d'en limiter, et que tu ne peux pas, on est dans l'addiction. Voilà. Alors évidemment, à une échelle et sur un produit moins problématique que la drogue, mais ça montre que quand tu... T'as beau savoir que c'est pas bien, eh ben, tu fais. Et donc, ça te. Et là, si tu transposes au consommateur de drogue, eh ben, tu te dis, ok, donc c'est ça l'addiction. Bon, heureusement, c'est moins problématique. Alors, le gros dossier là. Alors là, on va y passer du temps. Regardez, c'est très rare que je fais ça. Voilà. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. Donc ça, pour la ref, c'est Chantal Goya pour les plus anciens. Maintenant, plus sérieusement, ce matin, il y a des dossiers de partout sur la baisse de natalité en France. Voilà. On fait de moins en moins d'enfants. Et pour la première fois, c'est pour ça que les journaux en parlent ce matin, bah là, c'est les chiffres de l'INSEE, il y a eu... plus de décès depuis la Seconde Guerre mondiale, la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est plus de décès que de naissances. Voilà. C'est la première fois depuis 1945, c'est la une de la Croix, la natalité en berne, c'est la une du Monde, plus de décès que de naissances en France, c'est la une du Figaro, démographie, pourquoi la dénatalité s'aggrave en France, c'est la une des Échos, démographie, la grande bascule. C'est assez rare que plusieurs journaux comme ça du matin consacrent ensemble leur une au même sujet. C'est assez rare. Bon. On va en parler. Je vous ai mis les quatre dossiers. On lira pas tout. Ouf, café. Elle est belle, cette photo, en une de la Croix. Elle est belle. Bah, c'est beau, ça. Bon, moi, je suis un peu... Moi, je suis un papa. J'ai toujours été fasciné, depuis toujours, par la famille, la notion de famille, parce que j'ai eu la chance de grandir dans une famille heureuse, équilibrée. J'ai eu beaucoup de chance avec des parents aimants. Et du coup, j'ai toujours eu envie d'avoir une famille. C'était bien passé pour moi, donc de reproduire ce schéma. Et puis, et d'avoir des enfants, et idéalement plusieurs, parce que je trouve ça formidable. Voilà. Donc, je suis assez touché par ce genre de photos. On voit un couple et une jeune femme enceinte de, je dirais, de. On est au moins sur un septième mois. Hein ? Je suis un petit peu spécialiste de la question. La natalité en berne, donc c'est la une de la Croix. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le solde naturel de la population française est devenu négatif, constate l'INSEE. Alors il y a un édito, le tournant démographique qu'on va lire. Ton objectif c'est 200 enfants, non ? Non ! Bah non, d'abord c'est un truc qui se fait à deux. Déjà, donc c'est un projet à deux. Mais là on en a deux. Moi j'ai toujours dit que j'aimerais plus. 3, 4. Après, il y a l'âge, l'âge du streamer qui joue. Et puis la question du logement, bien sûr. La question aussi de la capacité à gérer avec le travail, tout ça. Voilà. Mais ouais, toujours toujours eu envie d'avoir des enfants, quoi. Le tournant démographique. Mais, encore une fois, c'est un truc infiniment personnel. Et je rappelle le truc, ma position sur ce sujet de la paternité et d'avoir des enfants.
Vous faites ce que vous voulez.
Vous voulez un enfant, c'est très bien. Vous voulez deux enfants, c'est très bien. Vous voulez trois enfants, c'est très bien. Vous voulez plus d'enfants, c'est très bien. Vous ne voulez pas d'enfants, c'est très bien. Voilà. Ne laissez personne vous dire, personne, ni les amis, ni la famille, ni un streamer, ni quiconque, ni la société, ni l'État, vous dire combien vous devez avoir des enfants et s'il faut avoir les enfants ou pas. C'est un choix personnel, intime. Voilà. Donc, ne laissez personne le dire, vous dire ce qu'il faut faire en la matière et votre avis sur le sujet, gardez-le aussi pour vous. Hein? Voilà. ça va dans les deux sens. Hein? Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que vous pouvez estimer qu'une faible démographie est un problème ou quelque chose de très bien sur un plan sociétal, mais votre avis sur est-ce qu'il faut avoir des enfants ou pas, vous le prenez, vous le mettez en boule, vous le mettez au fond de votre poche et vous le laissez là. Hein? Parce qu'en fait, c'est un choix intime et personnel. On s'en fout. Par contre, faites pour vous. Oui, vos idées en la matière, vous les appliquez pour vous. Hein, si vous voulez avoir des enfants, vous faites des enfants. Si vous voulez pas avoir d'enfants, vous n'en faites pas. Voilà. Ça, oui, vous avez le droit d'avoir évidemment un avis, une opinion. Mais vous l'appliquez pour vous. Hein? On s'en fout. Moi, par exemple, j'aime bien avoir des enfants. Voilà. Mais c'est mon sujet à moi. Voilà. Let's go. Le tournant démographique. Mais, CCI, perso, je comprends pas le choix de ma fille qui veut pas d'enfant avec une enfance heureuse. Alors, je peux comprendre que tu ne le comprends pas. Mais il faut garder cet avis pour toi. C'est compliqué, hein. Voilà. Tu viens de donner ton avis. Mais non! Mais non! Mais enfin, à quel moment le fait de dire « moi, Samuel Etienne, je veux des enfants », ça n'est pas un avis. C'est un fait, c'est un constat. Je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas que c'est bien dans l'essence du truc. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis que c'est juste mon truc. Ce n'est pas un avis. Vous voyez la nuance quand même? C'est un choix, mais ça n'est pas un avis. Putain, moi je me suis buté à la course à pied pendant des années. J'ai fait une trentaine de marathons. Est-ce que je dis aux gens, allez faire des marathons? Mais non! Vous allez vous flinguer le corps, c'est tout ce que vous allez réussir à faire. Je bois 13 cafés par jour, est-ce que je vous dis boire du café? Mais non! C'est un choix, mais c'est pas un avis. Ça n'est pas une bonne chose en soi. Ça confond envie et avis, merci. Je cours à cause de toi, Sam. Non, tu cours parce que tu es un très bon coureur, Sugar. Ça m'attriste alors que je ne veux pas devenir grand-mère. Mais il ne faut pas s'essayer. L'important, c'est que ta fille dont tu parles, qui ne veut pas d'enfant, aujourd'hui d'ailleurs, peut-être qu'elle va changer d'avis, l'important, c'est qu'elle est heureuse, qu'elle soit heureuse. L'important, que dans son équilibre d'aujourd'hui, il n'y a pas le désir d'enfant. Et c'est ça qui est bien. Voilà. C'est ça qu'il faut respecter et comprendre. Moi, je veux des enfants, mais si mes enfants, plus tard, ils ne veulent pas avoir d'enfants, ben j'espère que j'aurai la sagesse et l'intelligence de ne pas m'en mêler, de ne pas donner mon avis. Chacun son chemin. Édito. Le tournant démographique. Cette fois, nous y sommes. Pour la première fois depuis la fin de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, la France a enregistré en 2025 plus de décès que de naissances. Cette tendance que nous voyons poindre depuis plusieurs années et qui était annoncée ces derniers mois a été officialisée par l'INSEE mardi 13 janvier. Donc c'est pour ça que les journaux en parlent ce mercredi. C'est une info d'hier. L'an dernier, 645 000 bébés ont ainsi vu le jour. Vous imaginez 645 000 bébés? Ça fait du monde, hein? Tandis que 651 000 personnes sont mortes. Ah, il y a eu plus de morts que de bébés. Et ça, c'est une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Le premier chiffre est en baisse constante depuis 4 ans, le second en hausse depuis 3 ans, et les courbes viennent de se croiser. Il n'y a pas de quoi se réjouir de ces annonces. Et gageons qu'il faudra très peu de temps pour que ces données alimentent les énonciateurs du déclin. C'est-à-dire, la France, la place de la France, vous vous rendez compte, on ne fait plus d'enfants. Bah, déjà, si vous pourriez créer des conditions qui donnent envie aux gens d'avoir des enfants, hein, peut-être que on se la montrait moins sur la place de la France et notre croissance et les entreprises. Débrouillez-vous pour donner envie aux gens de faire des enfants. Hein, plutôt. Hein. Pourtant, on ne saurait mêler nos voix aux leurs tant les solutions qui s'offrent à notre pays existent. Alors, quelles solutions? D'abord, cette situation doit nous inciter à porter, dit Lacroix, un autre regard sur l'immigration. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que... Il va y avoir de la PLS là. Ah oui, il y a moins d'enfants. Alors certains disent, bah oui, mais peut-être qu'il faut changer notre regard sur l'immigration du coup. Ouais. Car si le nombre d'habitants est légèrement positif dans notre pays, la population française continue de croître très légèrement, c'est bien grâce à l'arrivée d'immigrés. Lacroix qui va se prendre des postes sur X. Non, ça m'étonnerait parce que souvent les auteurs de ces postes ne lisent pas les journaux. Et pas trop Lacroix non plus. Donc Lacroix est assez tranquille. Je pense que Lacroix ne sera pas harcelé de tweets. L'Europe ne fait plus d'enfants, elle vieillit. Voilà. Elle a besoin de migrants pour le renouvellement de la vie. C'est devenu une question de survie, avait déclaré d'abord le pape François. On est en train de lire le journal de Lacroix, qui est un journal chrétien catholique. Les migrants doivent être, ajoutait le pape, accueillis, protégés, promus et intégrés. Bon, là, on va dire que les personnes que j'évoquais à l'instant, dont je disais que l'avis de Lacroix sur le sujet allait sans doute les mettre en PLS, ne lisaient sans doute pas Lacroix. Et pour cause, Lacroix cite le pape qui dit: les migrants doivent être accueillis, protégés, promus et intégrés. Ensuite et parallèlement, les responsables politiques doivent enfin prendre à bras le corps la question démographique. Certes, Emmanuel Macron a lancé en 2024 un grand réarmement démographique. L'expression est affreuse. Est-ce qu'on pouvait imaginer expression plus laide, plus moche que celle-ci, hein, bravo Monsieur le Président, que le réarmement démographique? À quel moment on va donner envie aux Français de faire des enfants, hein, avec cette expression, hein, le réarmement démographique? On va rien réarmer du tout, surtout. Hein. Pire choix sémantique. En réalité, cette crise dit beaucoup de notre manque de confiance collective en l'avenir et doit être prise sous un angle conjuguant plusieurs facteurs. Logement?
Oui.
Mode de garde?
Oui.
Égalité salariale, pour ne citer que. Il est encore temps de le prendre au sérieux. Donc Lacroix, qui est un journal donc chrétien, catho, mais on va en lire d'autres, dit il y a quand même des solutions, mais c'est des solutions politiques. Hein. C'est l'accès à l'emploi, c'est le logement, c'est les conditions salariales. Au tenant du déclinisme ou que sais-je, Lacroix dit bah, en fait, non, il y a des solutions. Arrêtez de vous lamenter et créez les conditions dans un pays comme la France pour que les gens, éventuellement, s'ils le souhaitent, aient des enfants. Lisons un petit peu ces papiers. La France entre dans un tournant démographique. Merci, Greg Bise. Merci, Poulet 3000. La France, qui compte désormais 69,1 millions d'habitants, a franchi un cap symbolique puisqu'en 2025, le solde naturel de la population est devenu négatif pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est historique, hein, pour le coup, selon les chiffres de l'INSEE publiés hier. Donc les chiffres, je vous les ai donnés. Alors malgré ce solde négatif, la population a quand même légèrement augmenté par rapport à 2024. Alors, on fait moins d'enfants, il y a plus de décès, mais la population augmente. Pourquoi? C'est l'immigration. Voilà. Cette hausse de la population française est uniquement due au solde migratoire. Hein. Il y a plus d'entrées que de sorties sur le territoire. On est sur une estimation de plus 176 000 personnes pour 2025. La naissance, elle chute hein, de 2,1% par rapport à 2024. C'est le plus bas niveau de naissance depuis 1942. Cette baisse, comment l'expliquer, ne s'explique pas par une diminution du nombre de femmes en âge d'avoir des enfants, hein, qui a plutôt tendance à augmenter légèrement, mais bien par une baisse de la fécondité. Ce qu'on appelle la fécondité en termes démographiques, c'est le nombre d'enfants par femme. Hein. En 2025, l'indicateur conjoncturel de fécondité continue de diminuer, s'établit à 1,56 enfants par femme. Hein, je crois que le taux de fécondité pour un renouvellement de la population, c'est 2,1. Voilà, on est à 1,56. En 2010, on était encore à 2,02. Donc la diminution, elle est rapide. Elle est forte. La fécondité diminue surtout chez les femmes âgées de 30 à 34 ans. Chez les 25-29 ans, la baisse, elle est plus ancienne. Et encore plus marquée ces dernières années. En revanche, chez les femmes de 35 ans et plus, la fécondité se stabilise. L'âge conjoncturel moyen à la maternité et à la paternité ne cesse d'augmenter. On est parent de plus en plus tard. Hein. Alors ça, je l'évoquais tout à l'heure. Il y a plein d'explications à la baisse de la natalité en France. Mais l'une des explications parmi plein d'autres, c'est notamment qu'on a les enfants plus tard qu'avant. Notamment parce qu'on arrive sur le marché du travail plus tard. Parce que les études sont plus longues, hein, en moyenne. Que la recherche d'emploi, elle est parfois difficile, et souvent difficile au début. Et que du coup, ben, il est assez naturel parfois d'attendre d'être dans des conditions socio-économiques OK pour avoir un premier enfant. Et l'âge moyen du premier enfant, pour l'homme comme pour la femme, il est de plus en plus tard. On est à 31,2 enfants pour les femmes. 31,2 enfants pour les femmes, pour le premier enfant en moyenne. Hein. 34 ans pour les hommes. C'était beaucoup plus jeune avant. Beaucoup plus jeune. Après, il y a les décès qui sont en hausse, blablabla. Voilà. Non, pas 31 enfants par femme. J'ai dit 31 enfants par femme ? Non, 31 ans pour l'âge du premier enfant, pardon. Je me suis mal exprimé. Non, 31 enfants par femme, ça fait beaucoup. Même moi qui en veux beaucoup, ça fait beaucoup. 31, ça aurait de la gueule quand même. Mais je sais pas où je vais les mettre. Tu fais pas d'efforts. Si, je fais des efforts pour réarmer, moi. Si. Je fais des efforts pour réarmer. Moi, je réarme, hein, à titre personnel. Une salle de classe à la maison. Ben voilà. Puis après, tu t'embauches un enseignant et puis let's go. Hein. Alors, dossier dans Le Monde. Alors, je vais essayer de trouver les éléments intéressants qui ne répètent pas ce qu'on vient de lire dans La Croix. Oui, c'est une question de rencontre, bien sûr. Tu vois, je trouve que le témoignage d'Evrani 67 à l'instant est intéressant. Je ne voulais pas d'enfant jusqu'à ce que je rencontre il y a 4 ans la bonne personne. Parce que c'est, évidemment, c'est une question de rencontre aussi. Moi, j'aurais pu ne pas avoir d'enfant. Hein. Malgré ce souhait que j'ai depuis toujours de fonder une famille. Il y a un moment de ma vie où je me suis dit que j'allais sans doute pas fonder de famille parce que je n'avais pas rencontré la personne. Bon, j'ai rencontré Hélène, enfin, tard. Voilà. Donc c'est une question de rencontre. J'aurais pu ne pas avoir d'enfant. J'en ai eu. Je ne voulais pas d'enfant, me dit Evrani, jusqu'à ce que je rencontre il y a 4 ans la bonne personne. Je commençais de plus en plus à avoir ce désir de fonder une famille avec lui. Après réflexion, car on vit dans un monde pourri, on a un enfant et peut-être pas de deuxième. Clairement, c'est dur. Rien n'est fait en France pour donner envie d'avoir des enfants et financièrement aussi, il faut avoir les moyens. J'ai eu un enfant avec ma femme, dit Red Cube par exemple, ma femme de 38 ans. Nous avons mis notre temps à être prêts. Nous sommes aujourd'hui très heureux. Perso, je vais avoir 29 ans, me dit Yandereko, et du fait de certains de mes choix de vie, j'ai fini mes études à 25 ans, et je n'ai réellement travaillé que 2 ans en CDD. Là, je suis au chômage, j'espère trouver un CDI. J'ai réellement l'impression d'avoir rien vécu, et je veux pas me dire que dans 3-4 ans, je dois me mettre tout ça de côté pour avoir les enfants, même si je pense en vouloir. Alors j'ai un poste de le Yaourt Nature là qui est intéressant. En Arabie Saoudite, je me dis, mais où est-ce que tu vas? Bon, il va en Arabie Saoudite. Les gens sont riches. Il est facile de se loger. Le pays est religieux. La natalité baisse pourtant drastiquement. De 8 à 8 enfants à 2,3 en 40 ans. Les conditions argent, etc., c'est un argument naze, dit-il, ou dis-tu. Le seul facteur commun de la baisse de natalité des pays, c'est l'accès à la société de loisirs. C'est pas nécessairement un problème, mais un constat. Dans une société de loisirs, les enfants imaginent plus facilement vivre sans enfants. Les parents imaginent plus facilement vivre sans enfants. Merci, Elie Cochol. Merci pour ton message. C'est intéressant, ça. Oui, c'est pas parents qu'il faut que je dise s'ils n'ont pas d'enfants. Enfin, si, quand t'as deux enfants, t'es parent quand même. Malo, salut Malo. Je suis auto-entrepreneur, c'est tellement dur de se trouver un bon réseau. C'est peut-être égoïste, mais je ne vois pas mettre ma carrière de côté pour un enfant. Alors voilà, c'est un choix personnel. Jean-Michel, à peu près, qu'on aime ici, qui est ici avec nous. Moi, j'ai 47 ans, j'en ai jamais voulu, quelle que soit ma compagne, et je ne le regrette pas. Mazette, mon rêve est d'être papa, mais à 27 ans et après 7 ans d'études, ça fait 2 ans que je cherche un CDI, va faire des enfants dans cette situation. Alors, certes, le Yaourt Nature disait, ouais, c'est pas qu'une question de moyens, d'argent, de cadre et tout. Bon, je vois quand même beaucoup de témoignages dans le chat de gens qui me disent, moi, je voudrais, mais je trouve que les conditions matérielles dans lesquelles je suis ne me le permettent pas raisonnablement. Hein? Alors, c'est pas une vérité en soi, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de témoignages en ce sens. Le monde. Faut avancer quand même, parce que attends, il a quelle heure mon taxi qui m'emmène au Grand Palais là? Parce que il y a Joe qui va débarquer là. C'est où mes taxis? C'est quoi ce truc? C'est quoi ces diableries là? J'arrive plus à trouver un taxi. Ah voilà. Quelle heure? 13h40. On a encore un petit peu de temps, ça Le taxi au Grand Palais, c'est pas très de gauche, ça s'amuse. Bon, d'abord, qui te dit que je suis de gauche? Première chose. Le taxi pour aller au Grand Palais, c'est pas très de gauche. Un, qui te dit que je suis de gauche? Deux, mon hélicoptère n'était pas dispo. Donc le monde. Le monde, plus de décès que de naissances en France. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le solde naturel devient négatif en France, selon le bilan de l'INSEE, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. Derrière le déclin de la natalité, la question de l'évolution du désir d'enfant reste difficile à appréhender entre contraintes diverses et choix intimes. Voilà. Le nouveau congé de naissance, ah oui, tiens, la Croix en parlait pas, il y a un nouveau congé de naissance. Le nouveau congé de naissance entre en vigueur, mais le plan de lutte contre l'infertilité annoncé par Macron, lui, se fait attendre. Voilà. Alors, le désir d'enfant en question. C'est ça qui est compliqué dans notre débat. Faire la part entre ce qui est de l'ordre des choix individuels, des normes sociales et des contraintes diverses reste difficile pour expliquer le déclin de naissance. C'est pas un seul truc, quoi. La question du désir d'enfant résonne de nouveau à l'heure de la publication du dernier bilan de l'INSEE, écrit Le Monde. Tiens, je vais monter un petit peu le choix public. Cette chute de la natalité, qui a été amorcée il y a un petit moment en 2011, hein, 2011, traduit-elle tout bonnement une baisse du désir d'enfant? Le personnel politique, interpellé sur ce changement démocratique aux conséquences nombreuses, s'est emparé de la question. Un réarmement démographique, a dit Macron. Mission parlementaire sur les causes et conséquences de la baisse de la natalité. Hein. Chacun tente de comprendre les ressorts de la bascule en cours et d'y apporter des réponses. Dans le cas de la mission d'information, l'objectif affiché est bien de répondre à un désir d'enfant empêché. Voilà. Avec le constat que, oui, quand on demande aux Français combien d'enfants vous voulez avoir, et quand on regarde le nombre d'enfants qu'ils ont en réalité, eh bien, il y a un delta. Il y a un delta. C'est-à-dire que les Français, de façon déclarative, ont moins d'enfants qu'ils ne souhaiteraient avoir. Même si, par ailleurs, ils veulent moins d'enfants qu'avant. Mais ils en ont moins qu'ils en veulent. Et donc, il y a des politiques qui se disent... Bon, bah, faut peut-être, y a peut-être un truc à la société à changer pour que, entre ce désir d'enfant et la réalisation de l'enfant, eh bien, on fasse des choses, notamment sur la question du logement. On en parlera avec le Figaro. Voilà. Mais que sait-on de ce désir d'enfant à la croisée de l'intime et de l'époque ? Très peu de travaux y sont consacrés. Voilà, on est un petit peu dans le flou. L'étude des relations familiales et intergénérationnelles, menée par l'INED, est l'un des rares à aborder cette question, voilà, et interroger les Français sur leur nombre d'enfants idéal. Et le nombre d'enfants souhaités à titre personnel. Il y a des premiers résultats présentés en juillet 2025 dans une revue scientifique, au titre sans équivoque, les Français veulent moins d'enfants. C'est ce que je vous disais. Il y a un delta entre le souhait d'enfants et la réalisation, mais les Français veulent aussi moins d'enfants qu'avant. C'est ce que dit cette étude. En 25 ans, le nombre d'enfants souhaités, est passé de 2,7 à 2,3. Alors, virgule, ce ne sont pas des petits bouts d'enfants, hein, c'est pas des 0,3 d'enfants, vous l'avez compris, hein, ce sont des moyennes. 2,7, 2,3. Plus intéressant encore, selon l'enquête dans la tranche d'âge des 25-39 ans, un âge clé en matière de procréation, les intentions de fécondité sont en baisse dans toutes les catégories sociales de genre et d'origine. Joe vient de nous rejoindre dans le studio à l'instant et on va l'interpeller. Qu'est-ce que Joe attend pour réarmer la France ? C'est pas prévu. Me dit Joe. Voilà. Joe, la France a un problème. Hein? Tu vas bien ? J'ai une mauvaise nouvelle. J'ai une mauvaise nouvelle. Il n'y a plus de café.
T'as tout cassé ?
Il n'y a plus de café.
Ah, merde.
J'ai bu le dernier.
Non.
Si. Il n'y a plus.
Faut que je descende.
Il y a du thé.
Faut que je descende.
J'ai oublié d'acheter d'amener une, comme on dit, une réglette. Je savais que...
C'est dire que je suis dehors depuis 8h30 ce matin là et que...
Il est debout depuis 8h30 ce matin.
Non, dehors.
Il est debout, dehors. Qu'est-ce que tu fais ?
Bah, il faut tout préparer, tout ce que tu veux faire.
Mais faire quoi depuis 8h30 ?
Bah, il a fallu chercher les backpacks, les
condenseurs. Ah oui, c'est pour le stream IRL, la super production gérée par Joe de vendredi 14h. Vendredi 14h, on dirait du Grand Palais. 8 invités, une équipe, 2 cadreurs, un ingé son... Un assistant réel, un facilitateur.
Ouais, il y a un rodise et il y a un réel off-stream.
Un rodise, quelqu'un en régie.
Ouais.
On a une équipe de 8 personnes.
Ouais, c'est pas loin.
Ouais. La super production, les gars. Voilà. Donc, Joe, il est debout depuis ce matin. Ouais. J'ai les boîtiers 4G.
J'ai dépensé plein d'argent. Tu vas très vite.
T'as dépensé de l'argent ? Pas trop, quand même ? Faites péter les subs, putain.
Faites péter les subs parce que là, c'est cool.
Genre, t'as dépensé plus que prévu ?
Ah non, tu sais, j'ai racheté des boîtiers, des machins, des trucs.
Racheté de quoi ?
Bah pour ça, là.
De quoi ? Ouais. Ah ouais, mais ça, c'était prévu, ça.
Oui, bah du coup, c'est bon.
Je déconne. Ah oui, mais il faut dépenser un moment.
Attendez, on va aller en France.
Bah si tu veux acheter du café, n'hésite pas.
Bah j'y vais.
Le taxi est à 13h40.
Oui, on est là.
Je finis tranquille.
Oui, on est là.
Voilà. Ouais. J'ai un peu nettoyé, j'ai pris une grande résolution. Ce week-end, samedi, je vais venir ici. Je vais ranger là parce que c'est pas possible.
Et samedi, j'ai un sujet pour toi, mais samedi, il faut qu'on trouve une solution aussi.
Samedi.
Tu l'auras pas annoncé encore.
Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un truc samedi ?
Non, mais dimanche.
Dimanche, on fait quoi ? Si, Ava !
Oui, mais tu l'auras dit.
Oui, je l'aurais dit pour Ava.
Tu l'auras dit pour Ava ?
Ouais, qu'on fait une grande. Qu'on tient une grande tribune dimanche soir anti-RN tous les deux.
Bah super, voilà, parfait.
Ouais, nos passarans, tout ça. Non, je l'aurais dit. Et moi, j'ai envoyé une question à Ava parce que comme on va mixer, je lui ai dit, mais est-ce que tu veux qu'on soit assis dans le canapé ?
Non.
Il faut que je pense.
Ouais, mais du coup, il faut qu'on
réaménage tout. Bah ouais. Et tu crois pas qu'on devrait genre louer des lumières, des fumigènes, des troposcopes, tout ça ?
En fumée, je suis trop chaud.
En vrai, tu crois pas qu'on devrait louer des trucs, faire un peu.
Tu veux du fumée ?
Non, mais même des lumières, tu vois. Des...
On en parle après.
Non, hein ? C'est pas trop tard ?
Non, c'est pas trop tard.
Ce serait marrant ? Fumigène, je sais pas, les pompiers, tout ça. Attends, j'ai le message d'Ava. En soi, c'est plus simple de te montrer debout. Mais assis, c'est largement possible aussi. Il faut juste une table, pas trop basse. Surtout pour le dos, ça va être compliqué pour la durée. Ouais.
Non, on va être debout.
Joe me dit qu'on sera debout sur une table, virgule, on va bien faire les choses, point d'exclamation. Alors, pas debout sur la table d'ailleurs, debout avec une table. Ça va être super, hein. Hein, tu veux pas qu'on loue des trucs de fou là, qu'on rigole, des fumis, mais vraiment des lumières. Il faudrait du, limite, faudrait être du public quoi, des danseurs, faudrait des danseurs.
Tu leur dis à 100 subs, ils veulent venir.
À 100, quoi, à 100.
Non mais 100 subs chacun. Vous payez 100 subs et vous venez.
Non mais non, peut-être pas les danseurs, mais non parce que là, le public impossible ici.
De toute façon, dans tous les cas, il faut qu'on bouge tout. Hein.
Ouais, non, mais on va pas faire venir des gens.
On peut venir faire venir 5-6 personnes.
Ah bon, tu crois? Bah, ils vont pas, les gens ils vont pas danser.
Sugar Frog, il veut danser.
Sugar, tu veux danser, Sugar? Non, mais ce serait drôle en fait. Mais t'as vu, on peut pas mettre des gens là. Il y a Yubi qui dit je peux venir danser s'il faut.
Ah voilà, tu vois, ça fait déjà deux.
Vous voulez voir mon déhanché? Hein. Non, mais déjà, si on se met une petite ambiance. Un peu lumière de fou, fumis. Tu vois.
Dans ce cas-là, il faudra qu'on désactive les alarmes incendies.
Il y a les alarmes incendies ici?
Bah, c'est obligatoire, ouais.
Ouais, il y en a?
Si, pour l'URSSAF, il y en a.
Ah, si, j'ai un boîtier dans l'entrée, oui, t'as raison. Ouais, bah, de toute façon, pas sûr d'avoir mis des piles là-dedans, moi. Faites attention, c'est dangereux. Mais non, c'est de la fumée de discothèque, là. C'est du. Tu connais? En télé, il y en a partout parce que pour que les lumières, les spots soient jolis en télé, sur plateau de questions pour un champion.
Oui, sur les discothèques de la télé.
Non, en question pour un champion, il y a du fumis à toute petite dose parce qu'en fait, on en met un tout petit peu parce qu'en fait, ça améliore, tu sais, les gros spots là.
Mais ça fait un petit faisceau dessus.
Ça fait un petit faisceau dessus. Donc non. Nous, on va en mettre.
Mais tu veux pas leur parler des soirées télé sinon?
Quelle soirée télé?
Je sais pas, tu viens de dire les soirées fumées à la télé.
Ah non, on a eu un dossier sur la cocaïne dans Libération ce matin déjà.
Ouais.
Non, on va bien. Non, faudrait que ce soit rigolé, soit rigolo.
Ah, on peut toujours faire un truc. Hein.
On va faire un truc. Je vais embaucher des danseurs, moi. Donc, pardon, on était sur les enfants, donc. Bon, voilà, ça, c'est la soirée de dimanche soir avec Ava, quoi. T'as pas accès au plateau de danse avec les stars, demande Wanir. Un jour, je vous raconterai une histoire. Pardon, on continue sur les enfants. Donc, les Français veulent moins d'enfants. Voilà. On est passé de, en 25 ans, d'un nombre d'enfants souhaité de 2,7 à 2,3. Plus intéressant, dans la tranche d'âge des 25-39 ans, donc c'est un âge clé en matière de procréation, les intentions de fécondité sont en baisse dans toutes les catégories sociales de genre et d'origine. Or, rappel les auteurs, il existe un décalage entre le nombre d'enfants souhaités et le nombre d'enfants réels, hein, réalisés. Dès lors, la baisse du nombre d'enfants souhaités laisse présager une diminution de la descendance finale pour les générations nées après 58. Alors, pourquoi le désir d'enfant baisse? Parce que c'est deux choses différentes, vous l'avez compris. Hein. Mais c'est lié. Si le désir d'enfant baisse, le nombre d'enfants réalisés, l'expression est affreuse, mais il baisse aussi. Voilà. Les raisons de ce moindre désir d'enfant, il est beau ce mot désir. Enfin, pardon, je fais une parenthèse, je suis très bavard ce matin, mais désir. Désir, c'est beau. Le mot désir. C'est un mot aux confins, au carrefour de l'amour, mais aussi de la, comment dire, le terme de la sexualité aussi. C'est un très beau mot. Hein. Désir. Les raisons de ce moindre désir d'enfant sont brièvement exposées dans l'article. Les incertitudes liées à l'avenir, d'ordre climatique, économique, politique sont avancées. Pour la première fois, les auteurs relèvent que les répondants ayant une conception égalitaire des hommes et des femmes dans la société ont des intentions de fécondité plus faibles. Intéressant. Les auteurs relèvent que les répondants ayant une conception égalitaire des rôles des femmes et des hommes dans la société ont des intentions de fécondité plus faibles que les autres plus traditionnalistes. Alors, à l'inverse de cette étude, vous avez l'Union nationale des associations familiales, l'UNAF, qui défend l'idée d'un désir d'enfant qui ne varierait pas, s'appuyant sur plusieurs sondages. Alors là, ce n'est pas une enquête, ce sont des sondages. L'organisation observe peu d'évolution, dit-elle, de l'idéal personnel de fécondité entre 2011 et 2023. Ce serait bien des freins matériels, qui explique selon l'UNAF le décalage entre le désir d'enfant et la réalisation de ce projet. Et du coup, les politiques publiques doivent aider les gens à avoir le nombre d'enfants qu'ils souhaitent, a fait valoir le président de l'UNAF il y a quelques jours. La décision de fonder ou d'agrandir une famille est multifactorielle. Bon, ça, on le sait. Voilà. Pour expliquer la baisse actuelle de la natalité, il est donc compliqué de faire la part entre les choix individuels, les normes sociales, les contraintes diverses rencontrées par les couples, émancipation des femmes, hein, qui de plus en plus, heureusement par rapport aux générations précédentes, ont des carrières pro. Entrée massive des femmes dans le monde du travail. Alors aujourd'hui, ça paraît une évidence, mais encore une fois, pour les générations précédentes, ça n'était pas cette évidence. Noctalie, tu seras parfaite, toi. Injonction forte pesant sur la parentalité. Angoisse climatique. Vous voyez, vous n'êtes pas les seuls à en parler. Angoisse climatique. Infertilité croissante aussi. Coût élevé du logement. Voilà, c'est tout ça, en fait. Sugar a raison. Une foule de raisons pouvant peser sur la décision de procréer. Les sociologues, les historiennes, la psychanalyste interrogée par Le Monde sur la place singulière qu'occupe l'évolution du désir et du non-désir d'enfants souligne d'emblée la difficulté d'aborder ce tableau démographique en isolant un seul facteur multifactoriel. Intéressant ça. Je lis pas tout le dossier qui est passionnant en vrai. Hein. Pas par manque de temps, mais. Vous avez une dame qui s'appelle Charlotte Debest, qui est sociologue, qui dit. Aujourd'hui, il existe un consensus social énorme sur le fait de vouloir des enfants. Même si la parole de ceux qui disent ne pas vouloir d'enfants s'entend de plus en plus, et c'est une bonne chose, chacun fait ce qu'il veut, il y a encore ce consensus social énorme, dit la sociologue, sur le fait d'avoir des enfants. Et, dit-elle, la baisse de la natalité ne peut pas être lue comme une baisse générale, selon elle, hein, du désir d'enfant, dans la mesure où cette baisse peut, d'une part, porter sur le deuxième ou le troisième enfant. Et d'autre part, est lié à un contexte économique défavorable. L'une de mes hypothèses, dit-elle, c'est une chercheuse, donc elle est un peu prudente, hein, dans une démarche scientifique, est que les moins de 30 ans peuvent aujourd'hui davantage qu'hier se projeter dans la non-parentalité. Oui, il y a ça aussi, oui. C'est vachement intéressant. Le désir, d'ailleurs, peut-il être dissocié de l'évolution plus large des modèles familiaux ? Parce que l'image de la famille, des modèles familiaux, évolue. On peut lire dans l'actuel moindre engouement pour l'engendrement l'une des conséquences de la désinstitutionnalisation de la famille. Engagée depuis 50 ans, dit Dominique Mel, une sociologue de la famille. Un ou une, d'ailleurs, Dominique, je ne sais pas. La baisse du désir d'enfant s'inscrit dans un mouvement général d'ouverture des formes parentales. En germe depuis les années 70, qui va des maternités solo à la disjonction entre parentalité et conjugalité. On peut être parent hors mariage, bien sûr. Voilà. Le phénomène prend racine, selon elle, à la fois dans une volonté de sortir des diktats de la maternité. On n'est pas obligé d'avoir des enfants. Hein. Ça, c'est un discours qui peut s'entendre aujourd'hui bien plus qu'avant, hein, où c'était juste pas entendable. Il y avait une pression notamment sur les femmes qui était surréaliste. Lié à une conscience aiguë de ce que la parentalité fait peser en premier lieu sur les femmes et dans un mouvement culturel diffus qui s'érige contre les normes familiales et parentales. Salut Isma, bienvenue. Pas mal, hein ? Voilà, puis là on a de nouveau les chiffres. Qu'est-ce que dit le monde sur les chiffres ? Bascule historique, espérance de vie continue d'augmenter, baisse des naissances en jeu politique, place toujours singulière en Europe. Donc on ferait toujours plus d'enfants en France, malgré tout que les voisins européens... Alors que ça baisse beaucoup, comment la France se positionne-t-elle sur le plan européen à l'aune de ces chiffres qu'on a évoqués ? La comparaison est limitée par le fait que les données disponibles varient selon les pays et remontent souvent à 2023-2024. Sur le plan de la fécondité, il semble qu'elle conserve sa place. Le pays se situe au deuxième rang européen derrière la Bulgarie. Longtemps, on était très haut, deuxième derrière l'Irlande. En fait, on est toujours très haut. C'est-à-dire qu'en fait, on fait beaucoup moins d'enfants en France, mais nos voisins européens en font encore moins. On est deuxième derrière la Bulgarie. Sur tout le continent européen, la fécondité est en baisse, y compris dans les pays nordiques, pourtant longtemps érigés en exemple. C'est intéressant. Hein, voilà. Donc ça baisse encore plus chez nos voisins. Donc ça n'est pas qu'un problème français, c'est un problème européen. Voilà. C'est même un problème mondial, puisque de toute façon la baisse du taux de fécondité, elle est mondiale, y compris dans les pays, certains ne le savent pas, mais y compris dans les pays qu'on disait autrefois en développement, les pays les plus pauvres. Quoi. Alors, défi politique, dit Le Monde dans son édito, c'est-à-dire, en quoi c'est un défi politique ? Ah, Joe a acheté du café. On va lui demander ce qu'il a acheté. T'as acheté du café ? T'as acheté du café ?
Ouais.
T'as acheté. Désolé, hein. L'évolution. Alors, en quoi c'est un truc politique ? L'évolution des tendances de la démographie est lente par définition, mais il y a des moments où les statistiques, dans leur froideur, traduisent des inflexions humaines historiques. Voilà, on est à un moment historique. Tel est le cas de la publication mardi du bilan démographique de l'INSEE. Bon, ça, les chiffres, on les a donnés. Ok. Donc, Le Monde dit on est à un moment historique. Au-delà du symbole, ce croisement de courbes alerte sur le vieillissement de la population française, bien sûr. Les personnes âgées de plus de 65 ans seront bien plus nombreuses que celles de moins de 20 ans. Les personnes âgées de plus de 65 ans en France seront bientôt plus nombreuses que celles de moins de 20 ans. 14 ans après le début de ce mouvement de chute de la natalité, la France, qui a longtemps fait figure d'exception en Europe pour la vitalité de sa démographie, sa réarmée sec, affiche le nombre d'enfants par femme 1,56, le plus faible depuis 1918. L'immigration reste aujourd'hui le principal moteur de la croissance démographique. Historique pour notre pays, ce choc s'inscrit dans une tendance mondiale de décroissance et de natalité décorrélée du niveau au niveau du développement, c'est ce que je vous disais. La baisse de la natalité, du taux de fécondité, c'est partout, y compris en Afrique, par exemple. Alors souvent, parfois, on a des gens sur Internet, y compris dans ce chat, de gens qui disent « Ah oui, mais pas partout, regardez en Afrique !» Ben si, chouchou, ça baisse partout et ça baisse aussi en Afrique. Spectaculaire sur tous les continents. Voilà. Ce mouvement confirme le fait que la croissance économique et l'amélioration des niveaux de vie, après avoir été stimulé l'essor de la population, notamment par la baisse de la mortalité, on finit par produire l'effet inverse, tant en raison de l'évolution des modes de vie et des mentalités que du fait des difficultés matérielles et des inquiétudes sur l'avenir du monde. Gamay me dit l'Afrique de l'Ouest, non. Ça baisse moins dans certains pays africains, tu as raison. Ça se maintient encore dans certains pays africains, tu as raison. Le choix de fonder, d'agrandir ou non une famille dépend de très multiples facteurs dont aucun ne peut être isolé. Si l'angoisse climatique et géopolitique peut peser, de même que l'insuffisance de structures de garde d'enfants, la précarité croissante du travail, ah oui, ah bah oui, il y a ça aussi. Hein ? Ah bah oui, ça s'appelle une baisse, NBZH. La précarité croissante du travail et de ses horaires, ainsi que la grave crise du logement qui sévit en France, pèse lourdement et constitue des domaines d'action politique à privilégier en urgence, de même que l'éducation à la parentalité et l'aide aux familles monoparentales. Une politique d'immigration maîtrisée, assortie de solides mesures d'intégration, est aussi une partie de la réponse possible. Quelqu'un vient de me demander à l'instant, et je me pose la même question, Ibrahim, mais en vérité, est-ce que la baisse de fécondité est un problème ? Et Le Monde écrit et répond un peu à ta question. Je ne sais pas si je suis d'accord avec Le Monde. Il n'est pas besoin d'entonner le refrain du prétendu déclin français, bon ça c'est propre à certains partis en particulier, la tendance est planétaire, pour reconnaître la gravité des conséquences de la crise démographique. Voilà. Le système de retraite par répartition auquel les Français sont attachés est mis en péril par le déséquilibre croissant entre contributeurs et bénéficiaires. C'est le système de retraite en France. C'est de la répartition. Tu ne cotises pas pour ta retraite, tu cotises pour les gens qui sont actuellement à la retraite. C'est notre système choisi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Si tu as plein de retraités et si tu as plus de salariés, de cotisants, tu as un problème. Voilà. Merci NBZH. Donc il y a les retraites. Le vieillissement de la population pèse aussi sur les comptes et le dynamisme du pays. Maniant l'euphémisme, la Cour des comptes a pointé une forme de myopie en décrivant l'incapacité française à admettre le poids de la démographie en matière de finances publiques. Le constat vaut pour tous les sujets, du logement en retraite, de l'éducation aux conditions de travail, de la protection sociale à la place de la France dans le monde. Aucun domaine de l'action politique ne devrait être considéré indépendamment de l'enjeu démographique. Moi, j'avoue que j'ai du mal à me faire un avis sur l'importance économique de la démographie. Mais Mallory dit, c'est dans une logique de croissance constante que le monde prend ce parti. D'où l'intérêt d'une réforme des retraites. Ce système n'est pas tenable sur le long terme, dit Selma Booking. Alors, des dossiers, il y en a plein. Hein. Le Figaro, les Échos, voilà. Urgence démographique, dit le Figaro. Encore un dossier, démographie, pourquoi la dénatalité s'aggrave en France. Là encore, je cherche les infos qu'on n'aurait pas vues dans les dossiers précédents pour essayer d'avancer un petit peu sur la compréhension de ce sujet. Oh, petit chou. Voilà, comme c'est mignon. Bon, là, manifestement, il est tout petit, ce bébé. Hein. Plus de décès que de naissances. Bon, là, les courbes. C'est quoi, ça, cette courbe? Ah oui, quand même! Ah oui, c'est le taux conjoncturel de fécondité, donc le taux de fécondité, le nombre d'enfants moyens par femme depuis 1946. Alors ça part de 3, hein, et on arrive à 1,56 là. Okay. Et là, vous avez la courbe des décès et des naissances qui se croisent. Ouais, la courbe, elle est parlante. Okay, donc là, les chiffres, je pense qu'on ne va pas les répéter. Voilà. Et on va peut-être donner la parole à cet économiste, voilà, bon, qui nous a donné son avis sur le sujet. Il s'appelle Maxime Zbehi. Voilà. Il est l'auteur des balançoires vides. Donc, manifestement, il a écrit sur cette question de la démographie. L'exception démographique française est morte. Nous rejoignons le club des 20 pays européens au solde naturel négatif. Ça arrive 10 ans plus tôt que prévu. Ah oui, c'est un truc que je ne vous ai pas dit. Mais ça, les prévisions des démographes prévoyaient que ce qui vient d'arriver, là, le croisement des courbes, ça devait se passer. Moi, j'ai vu 2030, bon, lui, dans 10 ans. Voilà. Donc ça arrive plus tôt que prévu. Non par hausse soudaine de la mortalité, mais par effondrement de la natalité. Plus de morts que de naissances, plus de cercueils que de berceaux. Ça parle à tout le monde. J'espère que cette bascule va aider la France à sortir de son coupable déni de démographie. Bon, bah lui, manifestement, il veut qu'on fasse des gosses. Ce déni nous coûte cher. Donc, bon, bah on voit lui quelle est son opinion là-dessus. Car la France est infiniment plus sensible à la démographie que ses voisins en raison de son modèle social par répartition. Les retraites. À la longue, dit-il, la dénatalité change tout l'état d'esprit d'un pays. Derrière les chiffres des naissances, il y a des réalités concrètes. Des écoles qui ferment, faute d'écoliers. Des villages qui se meurent, faute de renouvellement générationnel. Depuis 2010, la France a ainsi fermé 6 000 écoles élémentaires et perdu un demi-million d'écoliers, et ça n'est que le début. Dans les années 60, la France était une cour de récré grouillante d'enfants. Aujourd'hui, elle est une gigantesque maison de retraite. La raréfaction de la jeunesse, le vieillissement inédit de notre population sont en train de remplacer l'espoir par le fatalisme. La destruction créatrice par la nostalgie destructrice. Le demain sera meilleur est devenu un c'était mieux avant. Bon, alors lui, clairement, il trouve que c'est pas une bonne chose qu'on fasse moins d'enfants. Quelles sont les principales conséquences de la dénatalité pour les années à venir? La démographie, autrefois moteur économique, devient un frein. La diminution visible du nombre de bébés, d'écoliers, d'étudiants va réduire le nombre de bras et de cerveaux pour faire tourner l'économie. Et de cotisants pour financer notre modèle social. Le défi n'est déjà plus celui du chômage de masse, mais des pénuries de main-d'œuvre qui se multiplient. moins de jeunes dans la société, c'est aussi potentiellement moins d'innovation, de prise de risque, de création d'entreprise. On le voit au Japon. Ma plus grosse crainte, dit-il, c'est que nous devenions une économie de rentiers avec un gâteau qui ne croît plus et qui est de plus en plus redistribué vers un nombre record de retraités. D'où l'intérêt d'aller contre la tendance démographique en réinvestissant dans la ressource rare qui est devenue la jeunesse. En gros, lui, le truc apocalyptique qu'il est en train de dessiner, c'est comme il y aura de plus en plus de retraités en France, proportionnellement à la population, bah, qui sont autant d'électeurs, et on l'a déjà vu dans les arbitrages de ces derniers mois, eh bien, ces retraités qui sont aussi des électeurs vont faire sans doute pression sur le système politique, qu'on touche absolument pas au système de retraite. Et lui, il estime que ça va se faire au détriment des jeunes, et notamment des jeunes actifs. Alors pourquoi maintenant la chute de la natalité, dit-il ? Question. Alors nombreuses, diverses, mais lui, il estime qu'il y a trois facteurs explicatifs, surtout. L'enchaînement de... Donc conjoncturel d'abord, l'enchaînement de la crise financière de 2008, crise de la zone euro, récession historique du Covid, ont bridé le niveau de vie des actifs. Donc il y a des raisons conjoncturelles économiques. Il a progressé ce niveau de vie beaucoup moins vite que les prix du logement, ça c'est sûr, hein, qui ont augmenté de 23% depuis 2010. L'enfant devient une variable d'ajustement à la crise immobilière. Le nombre de familles qui disent « nous on voulait un deuxième ou un troisième enfant, on ne le fera pas » parce que sur un plan de chambre, de pièces supplémentaires, de logement, ça n'est pas possible, ça c'est vrai. Donc il y a, le niveau de vie des actifs, il y a la crise immobilière. Deuxième facteur, les jeunes générations sont beaucoup moins souvent propriétaires que les précédentes au même âge. Dans nos grandes villes, un jeune actif a perdu l'équivalent de 2 chambres d'enfants en surface habitable par rapport aux générations précédentes. Enfin, troisième facteur selon lui, les modes de garde en forte tension. Un quart des effectifs des assistants maternels sont partis à la retraite. Les projets familiaux manquent donc de moyens, d'espace et de soutien pour se déployer. Est-ce que la baisse des naissances est due à une baisse du désir d'enfant, comme semblait le dire aussi une étude de l'INED qu'on a lue tout à l'heure, ou aux contraintes qui empêchent de fonder une famille, disent aussi des témoignages, des sondages. Que répond-il ? Alors il est un peu prudent, il dit la décision de faire ou de pas faire un enfant reste une alchimie mystérieuse. Les enquêtes qui tentent de sonder le désir d'enfant des Français montrent qu'il baisse légèrement, c'est vrai, mais qu'il reste hyper majoritaire autour de 2 enfants, ce qui est vrai aussi. Malgré cela, les naissances ont baissé de 25% en 15 ans, ce qui est énorme. Rien ne serait plus faux que de croire que la natalité s'effondre parce que les jeunes ne veulent plus d'enfants. Parmi les raisons qui empêchent cette réalisation, cette concrétisation de ce désir, on peut aussi imaginer la fragilisation du couple et la montée, dit-il, du célibat. Est-ce que les choix politiques ont des conséquences ? Est-ce que les choix politiques sur le budget empêchent les jeunes de se projeter dans l'avenir et dans la parentalité ? Et lui répond : on déplore la dénatalité en France, mais on continue de désinvestir dans la famille. Le budget voté de la Sécu réalise des économies sur les allocations familiales en décalant l'âge de leur majoration à 18 ans, ça c'est vrai, le budget qui est actuellement discuté à l'Assemblée, afin d'augmenter les pensions de retraite pour la 5e fois en 3 ans. Autrement dit, dit-il, nous finançons le baby-boom d'hier au détriment de la natalité d'aujourd'hui. Lui, il dit qu'on privilégie les retraités au détriment des familles qui veulent avoir des enfants. Ces choix politiques, donc, amplifient le déclassement d'une jeunesse qui ne parvient plus à se loger, à vivre de son travail, à se projeter comme avant. La promesse de vivre mieux que ses parents est rompue, ce n'est pas rien. Ah, c'est vrai qu'il y a un nouveau congé de naissance hein, qui vient d'entrer en vigueur au 1er janvier, là, je crois. Est-ce que le nouveau congé de naissance est susceptible d'avoir un effet sur la fécondité ? Cette réforme va dans le bon sens, mais elle a mis 3 ans à accoucher. Ok, j'aurais pas utilisé ce mot, mais tant pis. Et elle est minimaliste. Que valent ces 2 mois supplémentaires ? C'est en juillet ? C'est en juillet, mais c'est rétroactif pour les parents qui ont eu des enfants à partir du 1er janvier. En fait, elle s'applique en juillet, Camille. J'ai bossé un peu sur le sujet. La réforme, le congé, là, s'applique en juillet, mais rétroactif aux enfants qui seront nés à partir du 1er janvier. Normalement. Si vous avez des... Bah, c'est ça, MMG ? T'as bossé là-dessus aussi. Voilà. Donc, si vous avez des enfants à partir de janvier, là, depuis le 1er janvier, vous êtes concerné par le nouveau congé de naissance là, de 2 mois, voilà, qui reprend une partie de votre salaire. Je crois 70% pour le premier mois, 60% pour le deuxième, un truc comme ça. Voilà. Bon, si vous êtes concerné, vous pourrez trouver les infos sur Internet, c'est assez simple. Que valent ces 2 mois supplémentaires, s'interroge l'économiste, si à leur issue, il n'y a toujours pas de mode de garde adapté, disponible et abordable. On salue l'intérêt et l'intelligence du premier message de Manoé qui vient nous rejoindre pour la première fois dans ce chat et qui vient d'écrire Ben Laden dans le chat. Voilà. On aime bien ça. Les fous du bus du mercredi. Bienvenue mon ami. Peut-on espérer un rebond des naissances dans les prochaines années? Le nombre de femmes en âge de procréer va légèrement augmenter dans les années à venir grâce à la hausse des naissances des années 94 à 2010. Hein, si le taux de fécondité se stabilise, nous pourrions donc assister à un léger et temporaire rebond des naissances qui n'inversera pas la dénatalité, mais pourrait au moins la ralentir. Pour sourire un peu, pour rire un petit peu, parce qu'il faut un petit peu, dans l'actualité parfois, faire un petit pas de côté, un petit sourire, je reviens à la personne dont le premier message dans cet univers, cette communauté, cette chaîne a été d'écrire Ben Laden. Hein. Rappelons que cette personne a dû attendre 10 minutes, hein, puisque avant d'écrire un premier message, il y a un petit cool-down, je crois, de 10 minutes. La personne a créé donc a follow la chaîne, hein, et a attendu 10 minutes impatiemment. Donc ça fait 10 minutes que la personne nous écoute parler de taux de fécondité et de procréation et de démographie, et ça fait 10 minutes, hein, que la personne est là, hein, à nous attendre, hein, et en attendant ce moment crucial, important pour la face de l'humanité, pour écrire Ben Laden. Voilà. Alors c'est pire, hein, Sugar me dit que la personne avait follow depuis novembre, donc a littéralement mis non pas 10 minutes, mais 3 mois pour nous pondre cette masterclass. Moi j'adore. Pour le content. 3 mois, c'est long quand même. Hein. Donc, alors on a un site dans le Figaro maintenant qui nous dit, ben ouais, mais les gars, le logement, ça va pas du tout là. On ne se reproduit pas en cage. Putain, l'expression elle est affreuse, mais elle a le mérite d'être très imagée, quoi. Le logement, c'est la pierre angulaire de la démographie. Les témoignages de couples qui reportent ou abandonnent un projet de naissance en raison du logement afflux, des chercheurs commencent à établir un lien plus direct entre baisse des naissances et crise de l'immobilier. Je ne vais même pas vous le lire, ce dossier, c'est évident. On a lu déjà plusieurs articles sur le sujet ces dernières semaines. L'effort aujourd'hui pour se loger en France, pour les jeunes générations, il est beaucoup plus important que pour les générations précédentes. Hein. Avec le même budget, en euros constants, avec le même salaire, le même niveau professionnel, tu achètes ou tu loues beaucoup plus petit qu'avant, quoi. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc là, les politiques commencent à en prendre conscience. Quand est-ce qu'enfin il y aura une politique de logement à la hauteur de la crise du logement que vit notre pays aujourd'hui, ça. En tout cas, le lien, il est évident. Et les échos, encore un dossier, même sujet, vous voyez. Donc c'est vraiment le... bon, les échos, on est sur un journal plutôt libéral, qui s'intéresse plutôt à la vie des entreprises. Donc je pense qu'effectivement, a priori, j'imagine que le journal regrette hein, cette baisse de la natalité et de la démographie. Quoique, pas tant que ça, en fait. On est plutôt sur un truc factuel. C'est intéressant, on a une économiste qui est professeure d'économie à Polytechnique, qui s'appelle Pauline Rossi, qui dit que ça va durer. Les raisons profondes du déclin de la natalité sont là pour durer. Que dit-elle? Est-ce que c'est la fin du modèle démographique français? Oui. Salut Sugar. La France entre dans une nouvelle phase. C'est une rupture car cela signifie que sa population ne peut plus croître que par l'immigration. La plupart des autres pays européens sont déjà dans cette configuration. et la France conserve une natalité plus dynamique que bon nombre d'entre eux. Mais les raisons profondes du déclin de la natalité sont là pour durer. C'est la conséquence de notre modèle de société fondé sur la prospérité économique et les libertés individuelles. Quelles conséquences sur notre économie ? À quel point l'évolution démographique du pays bouscule-t-elle notre modèle socio-économique ? En France, l'arrêt de la croissance démographique pose d'abord une question pour les finances publiques, celui de la soutenabilité du financement de la Sécu. Hein. Mais au fur et à mesure que les boomers arrivent à des âges élevés, on découvre d'autres sujets à traiter, le financement de la dépendance par exemple. Ah bah oui. On a de plus en plus de personnes âgées, il va falloir financer la dépendance, l'accompagnement du vieillissement d'une part de plus en plus importante de la population. Aujourd'hui, le budget qui est consacré à la dépendance est 10 fois moins important que celui des retraites, mais il va falloir augmenter et trouver les moyens de le financer. Où est-ce qu'on va trouver l'argent ? Le déclin de natalité a un impact économique. Oui, il y a une corrélation entre une croissance économique et croissance démographique. Aux États-Unis, le ralentissement des créations de start-up peut s'expliquer par le vieillissement de la population, par exemple. En France, le nombre de postes à pourvoir chaque année est désormais supérieur au nombre de jeunes qui arrivent sur le marché du travail hors immigration. Voilà. Il y a un écart de près de 100 000 entre les deux. Cela crée des tensions sur le marché du travail. Vous allez me dire, faut voir les jobs. Hein. Bon. Alors, dans votre essai, vous estimez que plutôt que de s'inquiéter de cette nouvelle donne, il faut s'adapter. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors là, tiens, c'est intéressant, on est sur des propositions. Les effets négatifs de la baisse des naissances peuvent être limités par des politiques publiques. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de gens qui travaillent, mais de créer de la richesse. Il faut augmenter la productivité du travail. La révolution technologique est une opportunité pour atténuer les effets de la transition démographique. Mais pour cela, il faut créer les conditions pour permettre à l'économie d'investir dans l'innovation et dans les nouvelles technologies, ce qui permettra d'automatiser les tâches. Moi je dis full robot et on fait cotiser les robots pour payer les retraites. Hein. Nono, le robot là. Hein. Chut. Ok. Chaque mois, bim, tu vas payer une cotise de retraite. Non, c'est pas pour ta retraite, c'est pour les gens qui sont à la retraite. Répartition, baby. Pauvre nono, bah oui, mais enfin bon. Bah, il va falloir trouver les solutions. Hein. C'est le nerf de la guerre avec l'éducation qui doit permettre à chacun de se saisir des nouveaux outils. Il faut aussi réformer notre système de protection sociale afin d'encourager les seniors à travailler plus longtemps. Bah, pff, merci, quoi. C'est là une palette d'économies classiques, mais qui devient incontournable dans un contexte de déclin démographique. Ah, est-ce que la décroissance démographique n'a que des inconvénients ? Non. Elle présente un avantage sur le plan environnemental. La baisse de la natalité va entraîner une diminution des émissions carbone sans que les gens aient à réduire leurs émissions carbone individuelles. Bah oui, si on est moins nombreux, ouais, ouais. Cela devrait permettre d'atteindre plus facilement les objectifs qui ont été fixés. Ok. Merci Clavotte. Sinon, on change nos façons de consommer aussi. Okay. Voilà. 4 dossiers. Je trouve qu'on a un peu. C'est pas mal, on a eu pas mal d'infos quand même. Ouais, ça y va. Chacun y va de sa proposition. Hein. À Corinne Guy, faire des campagnes de dons de sperme comme le don de sang mais rémunéré. Il y en a qui, je sens que certains veulent se trouver des petits jobs. Hein. Ah, je me suis trouvé un petit job pour financer mes études. Ah, tu bosses au McDo ? Non, je me paluche. Hein, on sent les arrière-pensées quand même. Hein, hein ? Boulot. Wenir, comment on fait les bébés ? Alors, non, ça, c'est, je, non. Non, ça, non. Ça, vous vous renseignerez à l'heure d'Internet maintenant. Hein ? Vous tapez sur Google Images, vous tapez comment faire des bébés, vous devriez trouver plein de contenus. Merci Cadmerade pour ce prime. T'as Cadmerade quand même. Hein. Merci Clavotte. Ouais. Alors comme le dit Félicie, papa, il met blabla dans maman et voilà. Bah voilà, très bien. Tout est fermé. Parce que c'est pour les. Oui, mais c'est parce que. Ah oui, il y a les accès aux sites pornographiques sont plus difficiles en France, c'est vrai. Bon, il reste deux sujets. Bon, tant mieux. Joe, si t'as besoin de quelque chose, tu me dis, hein. Je crois qu'il est parti, je crois qu'il n'en pouvait plus. Voilà. Et deux actus plutôt positives. Voilà. D'abord, je vais vous présenter un métier que je découvre, que je trouve passionnant. Regardez, c'est dans La Croix, excellent journal. Ce métier, c'est enquêteur en criminalité environnementale. Je trouve ça génial. Alors, La Croix l'a baptisé l'Indiana Jones vert, dont non, ça n'est pas un pilleur de tombes écologiste, hein, qui défie les trafiquants. Pour défendre la nature et les animaux, le trentenaire a endossé un métier peu commun, enquêteur en criminalité environnementale. Un travail de l'ombre pour endiguer ces trafics lucratifs en plein essor dans les organisations criminelles. Enfant, il voulait être soit policier, soit vétérinaire, soit agent secret. Bah, finalement, il est devenu un petit peu les trois. Il s'appelle Louis Rochard. À mon avis, c'est un pseudo. Enquêteur sur la criminalité environnementale avec une affinité pour le trafic illégal d'animaux. Il garde de l'enfant, de l'agent secret, ce besoin de rester invisible. Casquette sur le front, regard furtif, qui ne cesse de cataloguer les passants, de réagir au bruit qui nous entoure lorsque nous nous retrouvons dans un hôtel parisien. Une seule photo de moi suffit, explique celui dont le nom est un pseudonyme. Quand on enquête, surtout si on remonte ses réseaux criminels, on se retrouve avec des ambassadeurs, des policiers, des douaniers corrompus. Mieux vaut ne pas être identifié, d'où cette photo. Voilà, il cache son identité. Qui est son employeur? Je vais vous expliquer. Voilà. Il le sait que trop bien, lui qui a vu sa tête mise à prix durant 6 mois sur un groupe WhatsApp d'orpailleurs illégaux brésiliens, à partir d'une photo floue prise sur une pirogue après une opération de démantèlement d'un camp. Avec son épaisse chemise de ranger et ses récits d'aventure au cœur de l'Amazonie, l'enquêteur porte bien le surnom que certains proches lui donnent, l'Indiana Jones vert. Mais il écarte très vite la comparaison, je dirais plutôt que je suis dans un polar bien sombre et pas très sexy. Parmi ses faits d'armes, il a notamment identifié des réseaux de braconnage de jaguars en Bolivie, l'animal, hein, pas la bagnole, ou documenté des maillons de l'orpaillage illégal en Colombie. Dans un récent livre, Crimes contre nature, il raconte une partie de ce quotidien, faite de recherches en sources ouvertes sur Internet, de missions sur le terrain aux touristes incognito et de coopération avec des associations ou de forces de l'ordre. Qu'il s'agisse des steaks dans nos assiettes, du parquet sous nos pieds, des bijoux offerts pour les fêtes, l'enquêteur espère sensibiliser sur ces trafics méconnus qui nous touchent tous indirectement. Aussi discrète que lucrative, cette criminalité longtemps délaissée, la criminalité environnementale, délaissée des autorités, a progressé de 40% en 10 ans selon Interpol et s'imbrique toujours plus avec le narcotrafic, le trafic d'armes ou la traite d'êtres humains. Pardon, je suis sur un historique là. Oh là là. Ah oui, c'est toi. D'accord. Ok, j'enchaîne. Ah, pardon, donc je reviens à mon Ninja Jones vert là. Démanteler les réseaux de pêche illégale ou de déforestation, c'est attaquer au gagne-pain des organisations criminelles. Estime Louis Rochard, qui a découvert ce milieu en 2014 dans un séjour au Costa Rica. Hein, il explique, j'étais dans un pays connu pour protéger les requins, Costa Rica. Hein, et j'en avais sous les yeux des ailerons partout, sur les toits, même le sol. Voilà. Il fait de multiples recherches sur ce trafic. Au départ sur Internet, sur les sites des ONG spécialisées, et décide d'ouvrir un blog sur la pêche illégale. Lui qui a grandi à Crapahuito en Amérique latine et avec sa famille s'est découvert très tôt une passion pour les animaux sauvages. Il se souvient notamment de ce spectacle de tortues qui venait pondre sous ses fenêtres lorsqu'il était enfant. De retour en France, quel est son parcours? Un raid incroyable de Bruno Univers Simu. Comment ça va Bruno? Tu vas bien? Bruno qu'on verra bientôt sur cette chaîne Twitch. Je dis ça, je dis rien. De retour en France, quel est son parcours? Il quitte ses études en commerce international et entame un master en intelligence économique avec en parallèle une formation en risque et environnement à la Sorbonne. Après avoir été sollicité par un institut de recherche pour enquêter sur les têtes de réseau des cartels mexicains, Il décide en 2018 de se lancer comme consultant indépendant sur le trafic d'animaux sauvages auprès d'ONG spécialisées. C'était passionnant, mais j'étais très frustré, raconte-t-il. On rend un rapport, mais on ne remonte pas les réseaux jusqu'aux responsables. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas la volonté. On se contente d'arrêter les braconniers locaux, qui sont souvent eux-mêmes les victimes et boucs émissaires des organisations criminelles. Là, c'est quand il bossait pour les ONG. Alors, il décrit un sentiment rageant d'impuissance. Voilà. L'arrêt subi d'une enquête en 2021 sur le commerce d'eau de lion en Afrique du Sud, faute de soutien financier, fut la goutte de trop. Du coup, aujourd'hui, il préfère collaborer avec des instances officielles, comme des armées nationales, en faisant du renseignement à des fins d'action. Là, il voit les arrestations, les démantèlements s'enchaîner et le travail retrouve sa saveur. Avec un côté grisant, demande Lacroix, lorsque je me retrouve dans l'hélicoptère ou bien sur une pirogue pour une action ciblée, bien sûr, je suis plus excité qu'inquiet. Hein, ce travail, c'est toute ma vie. L'an dernier, l'enquêteur a lancé sa propre ONG, Green Ghost, en s'alliant au savoir-faire de 4 autres experts issus du renseignement pour contrer la criminalité environnementale, bébé qu'il espère voir grandir aussi vite que c'est que les trafics. Pas que ces trafics. Voilà. Indiana Jones vert. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait 10 000 emplois à pourvoir, mais c'est intéressant, quoi. Pas mal, non ? Fantôme vert, pas ouf comme nom. Si, j'aime bien Fantôme vert. Un petit DM, Ayakashi, Yokai, mon mail pro et sur tous mes réseaux sociaux. Ils ont le droit de faire ça ? Tu veux dire d'enquêter sur les criminels ? Pour donner les infos à la police et aux armées ? Ouais, j'ai l'impression que oui. Merci Bruno pour ton raid. C'est cool en vrai, ouais. Un dernier article, un petit plaisir. Putain, on va dépasser les 3 heures. Hein. Un musée des jeux vidéo. Ok, Mathieu, c'est vrai. C'est intéressant ce que tu dis. Un jeu... Alors, c'est pas le musée du jeu vidéo de Thèves. Hein, le créateur de contenu français installé au Japon, hein, qui est sur un gros projet, hein, de grand et beau musée de jeux vidéo qui devrait être sur la route en partant de Paris de Disneyland. Là. Voilà. Donc ce n'est pas le projet d'ici Japon, c'est plus qu'un projet, puisque ce musée de jeux vidéo-là, il vient d'ouvrir. C'est à Arcueil. Hein. Arcueil ouvre un musée de jeux vidéo fondé par une association qui s'appelle MO5, comme le vieil ordinateur là, qu'on a vu tout à l'heure, je crois, de Thomson. Le musée du jeu vidéo a ouvert ses portes à Arcueil en décembre dernier. L'ancien hôtel de ville d'Arcueil a laissé place aux manettes, consoles et autres bornes d'arcade. Bon, je vais y aller avec les enfants, moi. Ouvert le 13 décembre dernier, c'est tout neuf. Le musée du jeu vidéo a remplacé les papiers administratifs et autres arrêtés municipaux, puisque c'était dans l'hôtel de ville, quoi. Avec plus de 3600 visiteurs depuis l'inauguration, ce musée unique en France attire les franciliens. Nous avons eu l'idée il y a 20 ans, car c'est un lieu qui manquait en France alors que nous avions des pionniers et de grands succès français dans l'histoire du jeu vidéo, indique Nicolas Bernardino, qui est le régisseur et le guide du musée du jeu vidéo. Et celui de Thèves, ce sera vers Bussy-Saint-Georges, je me rappelle, Eric. Je ne sais pas où il en est. Ça fait un moment que je n'ai pas vu d'ailleurs d'article sur le projet de musée de jeux vidéo de Thèves. Avec 1200 m² d'exposition, c'est quand même pas mal, hein. Celui de Thèves, l'article en parle à la fin. Je crois que c'est autour de 3000, je crois. Avec 1200 m² d'exposition, l'association MO5 qui gère cet espace n'a pu exposer qu'un peu moins de 3% seulement de son immense collection entamée depuis les années 90. C'est fou, hein ? Parmi ces trouvailles, les visiteurs pourront admirer une borne d'arcade Sega Rally 2, sortie en 98. Un musée du jeu vidéo avait déjà vu le jour près de Strasbourg, mais avait finalement fermé ses portes en 2020 après 3 ans d'existence en raison de difficultés économiques. Donc il y a déjà eu des musées de jeux vidéo en France, mais il y en a eu un, il a fermé. Au total, à Arcueil, celui qui nous intéresse, là, ce sont 140 postes jouables par les visiteurs. Je m'arrête là-dessus. C'est pas un musée... On peut jouer. 140 postes jouables. Pour les visiteurs, 600 machines exposées, allant de 1958 à nos jours, avec la PS5. Parmi les prototypes et consoles, le musée a également mis en avant des affiches publicitaires, des magazines de jeux vidéo et des collages d'un artiste français, M. Garcin. Le reste de la collection, également préservée à Arcueil, s'est construit progressivement pendant 25 ans grâce à des dons, notamment d'anciens créateurs de jeux, pour sauvegarder tout ce patrimoine vidéoludique. Ce qui représente 17 tonnes environ, estime Nicolas Bernardino. L'association préserve, entretient les consoles, boîtes de jeux, autres ordinateurs pour qu'ils restent jouables. C'est notamment le cas de la borne d'arcade bleue pailletée Computer Space, sortie en 1971, que l'association MO5 a remis sur main. Une borne d'arcade de 1971. Très belle année, très bon cru. C'est pas la première fois qu'elle met en lumière une partie de sa collection. Plus de 60 000 personnes avaient pu découvrir quelques machines lors d'une exposition à la Monnaie de Paris en 2024. Je ne l'ai pas eu celle-là. Ou lors de Game Story à Versailles en 2025. À côté du musée, l'association MO5 espère pouvoir continuer à réaliser des expos, car nous avons beaucoup de prototypes et de jeux dans nos stocks. Sourit le guide du musée. Et à Bussy-Saint-Georges, en Seine-Maritime, un autre musée, celui de Thèves, du jeu vidéo de 3000 m2. Vous voyez, c'est à, voilà, 1200 m2 là, à Arcueil. Et le projet de Thèves, c'est un peu plus grand, 3000 m2, un projet pour 2028. Et Chomban me donne des news de ce projet. Celui de Thèves est en cours de construction, le projet avance et ils ont même monté une équipe avec Florent Georges et sa collection magnifique en leader, il me semble. Pas mal, hein ? Voilà, on finit avec cette nouvelle sympathique. Voilà pour la revue de presse. 2h59. 57 secondes, 58 secondes, 5, 3 heures. C'est pas mal. Merci les amis. Bon, dans quelques dizaines de minutes, mon hélicoptère qui est réparé, ça y est, m'emmène au Grand Palais pour une reconnaissance technique avec Joe sur cette super production de vendredi 14h pour les 200 ans du Figaro. Tiens. Je vais vous mettre une petite collab commerciale. Bim, vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais vous rappeler qu'en tapant point d'exclamation Figaro, vous avez une promo de fou sur un abonnement Figaro, genre 2 euros par mois. Une dinguerie. Voilà. Parce que c'est les 200 ans du Figaro. Là, pendant 3 jours, il y a 3 jours d'exposition. Une expo de fou sur l'histoire du journal, mais quelque part aussi l'histoire des médias, finalement, et du journalisme au Grand Palais. Voilà. Tout le monde peut y aller, mais je crois que toutes les places sont prises sur place. Et ben, du coup, moi, je vous fais découvrir cette expo avec 8 invités, qui sont 8 journalistes. Ça, c'est vendredi. Donc, c'est un gros stream IRL. Là, on va en reco technique avec Joe pour voir s'il y a la co, comment ça se passe au niveau du son, de la lumière, des déplacements, etc. Donc, ça, c'est vendredi. Demain, 14h toujours, MVP, Mavi Pro, spécial. Métier justement du journalisme et des médias, voilà. Donc toute la rédaction de MVP s'est décarcassée pour vous faire un très beau MVP. Vous allez voir, il y a plein d'invités, ça va être super sympa. Je vous épingle la promo du Figaro. Et ça, je le bosserai, je vais le bosser cet après-midi. Voilà. Et dimanche soir 20h, Marianne me dit que d'ailleurs les conférences du Grand Palais sont accessibles sur le site du Figaro. Ah très bien, parce qu'il y a des conférences, il y a plein de choses, il y a de la musique. Le Figaro fait un peu la fête son anniversaire, c'est un peu une teuf quoi. Voilà. Et puis dimanche, Avamind dans Ça me plaît, pour, j'attends le visuel avec impatience parce que j'ai demandé à Léa de nous faire un beau visuel d'annonce du stream de dimanche. Voilà. Où Ava va me coacher pour que je devienne DJ. Il y aura une revue de presse demain, bien sûr, Clem. Je vous fais quand même une revue de presse demain, 9h midi. Après, je vais à la maison de la radio. Il y aura quand même une revue de presse vendredi. Et après, je vais au Grand Palais. Voilà. Et je vous montre la promo dont je vous parlais. Voilà. Pour ceux qui veulent s'abonner, en vrai, le prix, il est fou. Voilà, 2 euros par mois. Pour s'abonner au Figaro pendant, si vous le souhaitez, 200 semaines, donc genre 4 ans. Voilà. Je dis si vous le souhaitez, parce que vous pouvez interrompre l'abonnement à tout moment, 2 euros par mois, sachant qu'un quotidien, quand vous l'achetez en kiosque, ça coûte entre 3 et 4 euros aujourd'hui. Voilà, l'abonnement est un petit peu fou. N'hésitez pas à en profiter. C'est pas 2 euros par semaine, c'est 2 euros par mois. Ouais. En vrai, n'hésitez pas à en profiter, parce que là, ils font ça pour leur anniversaire. À mon avis, la promo ne va pas durer longtemps. C'est marqué jusqu'au 19 janvier. Ouais. Donc, voilà. En vrai, entre les pages internationales, les pages culture du journal que moi j'aime bien, Il y a vraiment de la matière à lire. Le prix, il est assez fou en vrai. Point d'exclamation, Figaro, vous avez toutes les infos. Les amis, des bisous. Qui est en live? On fait un raid. Qui est en live? Il y a Alpha qui est en live. Il y a Micode qui est en live. Yann qui est en live. Qu'est-ce qui fait mon chouchou là? Je regarde. Alors j'ai déjà une envie là. Hier on a raid Jardy Stream. Je regarde un petit peu qui est en live. J'ai déjà une petite envie là. Bon allez, let's go. Il est où? Attends, il est où, il est là? Il vient de lancer sans doute, non? Il y a Jean qui vient de lancer, je pense. Jean Massier. Hein. Les dernières QAG de Le Cornu avant la censure pour interrogation. QAG, Jean, question au gouvernement, bien sûr, on est mercredi. Hein. Voilà, let's go. Allez. L'ami Jean, contenu de qualité sur l'actualité politique. Voilà, Jean, je l'aime bien, vous le savez. C'est un poteau, on va le voir. Je vous remercie pour ce matin. C'est en replay sur Twitch si vous êtes abonné. C'est en replay sur YouTube à J+1 si vous ne l'êtes pas. C'est en replay à partir de 15-16h en podcast audio sur toutes les plateformes de podcast. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain matin pour la revue de presse. Je pense que je ne streamerai pas de gaming ce soir parce qu'il faut que je prépare les gros streams dont je vous ai parlé à l'instant. Des bisous, on va voir Jean. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et à demain matin. Ciao, ciao.